Dans le Tempo, épisode 28, on est parti.
Thomas présente. Dans le Tempo.
Ah bah c'est magnifique, vraiment,
c'est magnifique. À chaque épisode.
Tu es ébloui.
Ah, je suis subjugué par la maîtrise vraiment de ce lancement. Bon, comment ça va, Salman?
Écoute, ça va pas mal, c'est le rush, tu sais, un peu avant les vacances, là, cet été et tout. Donc ça taffe dur pour pouvoir partir l'esprit tranquille. On enchaîne les podcasts d'ailleurs.
On enchaîne.
Pas mal.
On enchaîne bien. Franchement, je parlerai bien de vacances et tout, mais je suis saltimbanque donc on s'en fout.
Tu pars pas en vacances toi? T'es tout le temps en vacances?
Je pars, mais oui. au niveau INSEE du truc, je suis tout le temps en vacances puisque je suis chez Pôle emploi. Non, moi je voulais juste faire un petit SO à Doctocyclo, à Gare de Lyon. Ils ont sauvé ma bicyclette, hein, parce que voilà, j'ai eu un petit problème de pneumatique. C'est des choses qui arrivent quand on est un rider comme urbain.
T'es quand même là pour l'émission.
Ouais, je me suis démené. J'ai mis la pression à Doctocyclo. Je dis non, mais s'il vous plaît, c'est important, parce que le mec il me disait non, mais repassez demain. Je dis non. Je veux mon lot tout de suite parce que je suis attendu, moi.
Est-ce que tu lui as fait peur un peu comme ça?
Un petit peu, ouais. Ça a pas marché.
Ça
a pas marché. En tout cas, on se retrouve pour ce numéro 28 de Dans le Tempo et on accueille Ager, a.k.a. Vintage Arabe.
Bienvenue, Ager.
Sois
la bienvenue chez nous.
Merci pour l'invitation.
Bah écoute, c'est un grand plaisir. Ager Ben Boubaker, je peux peut-être la présenter même pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu es notamment la créatrice d'un podcast qui s'appelle Vintage Arabe. Tu es passionné, et d'ailleurs c'est ce dont tu parles dans ce podcast, de musique arabe notamment. Tu as fait des études d'ailleurs en sciences politiques, en histoire, et on retrouve ça un peu dans ton approche, dans ton podcast, parce que c'est à la fois l'aspect musical, culturel, mais aussi parfois politique, tu t'attaches à des grandes figures. Bref, c'est un podcast absolument passionnant, donc on vous invite à aller l'écouter. Et si on te reçoit aujourd'hui, c'est justement pour parler un peu de musique arabe. Dans ce podcast, on essaie de faire part un peu de la diversité du monde de la musique de manière générale. Chaque épisode ne se ressemble pas, on a à chaque fois des invités extrêmement variés et tout. Ce qu'on trouve assez passionnant et riche.
Ouais, c'est cool, ouais.
Très cool. Espère que c'est votre cas aussi. Et la musique arabe, ou les musiques arabes, d'ailleurs, on pourra en discuter de comment en parler exactement. C'est un monde qu'on connaît un peu moins, alors qu'il a connu, je parle avec le prisme français, quelques moments de gloire un peu dans la musique populaire, avec le raï à une certaine époque, etc. Mais qui est quand même assez méconnu globalement. Et on aimerait bien essayer avec toi d'apprendre à mieux le connaître, cet univers, tout simplement. Je précise d'ailleurs que tu bosses aussi régulièrement avec France Culture, pour qui tu fais des séries documentaires. Tu avais aussi un documentaire qui s'appelle « Une histoire du mouvement des travailleurs arabes » qui a été assez remarqué, avec un prix, etc. Bon bref, quelqu'un dont le travail est salué globalement. Quelqu'un de qualité, donc tu vas bien nous aider, j'imagine.
Je suis bien entouré aussi, donc du coup c'est cool.
Parfait. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être commencer une première partie en essayant humblement, évidemment, parce que c'est un sujet extrêmement vaste, mais de commencer une espèce de cartographie un peu de la musique arabe et de cette diversité. Peut-être, est-ce que tu penses que le plus pertinent, c'est de passer par les lieux, les géographies? Parce que la musique arabe, c'est la musique qui vient du monde arabe? Comment on pourrait un peu...
Ce serait peut-être ce serait réducteur de penser ainsi, parce que ce qu'on appelle le monde arabe, donc cette géographie qui va du Maroc jusqu'au Golfe globalement, c'est-à-dire les pays qui parlent l'arabe ou un dialecte de l'arabe, qui ont usage de cette langue, contient aussi d'autres diversités culturelles qui ne sont pas en langue arabe.
Et donc, on peut penser aux berbères.
Exactement, les musiques amazighes, on peut penser aux musiques kurdes, on peut penser à même des minorités d'autres minorités, puisqu'il y en a quand même beaucoup, je sais pas, les Tcherkesses, c'est pas ça qui manque, en fait, les peuples dans ces contrées. Du coup, moi, je préfère parler des musiques arabes, plus globalement. Même si c'est vrai qu'en France, on a tendance à plutôt parler de la musique arabe, ce qui est pas assez juste, parce qu'on parle pas aussi, on peut dire la musique française, mais ce serait réducteur aussi, puisqu'il y a plusieurs genres musicaux en France et en français. Je pense qu'un des prismes déterminants, c'est quand même l'usage de la langue quand on la chante. Et c'est vrai que dans cette catégorie des musiques arabes, ce sont des musiques chantées en arabe, que ce soit en arabe dit classique, en fusha, ou que ce soit chanté dans des variantes locales, des langues vernaculaires, les langues parlées dans des pays ou dans des territoires, parce que pareil, quand on rentre même dans un seul pays, on se rend compte qu'il y a une diversité linguistique sur la même langue vernaculaire, quoi. Assez impressionnant. Ensuite, je pense qu'il détermine en fait un peu ce qu'on considère en fait comme des musiques ou des genres musicaux plutôt arabes, ce serait les rythmiques et l'orchestration. Je pense que c'est assez déterminant dans la manière dont se construit la musique. Quand je parle de rythmique ou d'usage d'instruments, ça ne veut pas dire que c'est des instruments qui ne sont utilisés que par des Arabes. Là aussi, ce serait réducteur, puisque les instruments dits classiques, on peut penser au oud, le oud, la guitare dite orientale en Europe.
Une forme de luth.
Ouais, c'est le luth. Même sa traduction, c'est le luth. Et est un instrument qu'on retrouve en Grèce, qu'on retrouve en Turquie, qu'on retrouve en Iran. Elle connaît des variantes aussi hein, dans sa construction, dans ses cordes, dans l'usage qui en est fait. Pareil pour le qanoun, qui est un élément aussi déterminant de ce qu'on considère comme étant musique classique arabe.
Le qanoun qui ressemble à une sitar assez allongée. Et
une sitar qu'on peut poser sur une table et qui se joue.
Plectre, d'ailleurs, même souvent, non ?
Ouais, et qui se joue. Alors, moi, je ne suis pas musicologue et je sais pas, j'aurais rêvé. Ouais. Vraiment, j'aurais rêvé de faire du qanoun, mais on n'a pas pensé à m'inscrire en même temps. Je suis née en France et c'est pas les cours de qanoun qui, on va dire, il n'y a pas vraiment d'offres. Il y en a très peu, quoi. C'est plus un instrument qui coûte très très cher, par ailleurs. Mais qui se joue avec les deux mains. Ouais. J'imagine, je suis pas musicologue encore une fois, mais que ça doit être dans les mêmes familles que la sitar. Ouais. Effectivement, et c'est aussi une musique qu'on retrouve en Iran. Le qanoun est aussi utilisé en Grèce. Donc en fait, voilà, c'est pas forcément des instruments qu'on retrouve seulement dans les pays arabes. Hein. Ouais. C'est juste qu'en fait, le rassemblement de certains d'entre eux et la manière de jouer de la musique avec peut former un genre musical.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une diversité importante avec des sphères d'influence culturelle, historiquement, des vagues successives, etc., qui mélangent forcément les genres, mais comme dans tout pays, dans tout style musical d'ailleurs. Mais c'est particulièrement vrai parce que c'est vaste déjà d'un point de vue géographique, le monde arabe. Puis on pourrait même intégrer dedans des pays comme la Turquie, et dans le monde arabo-musulman en tout cas, qui aussi ont des spécificités musicales, mais qui parfois empruntent des codes.
Alors, je ne mettrais pas la Turquie dans le monde arabe, je pense que...
Arabo-musulman, en tout cas.
Musulman, du coup.
J'aime pas trop mêler les deux, très bien.
Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des pays, enfin, c'est des régions qui ont des liens, enfin, on est quand même sur des régions qui ont souvent fonctionné, on va dire, dans des empires communs. Donc, en fait, la circulation passe par le fait qu'il y a eu des empires l'Empire Ottoman, avant l'Empire Abbasside, l'Empire Omeyyade. Donc, il y a des rencontres, évidemment. Et on s'inspire les uns des autres, même dans la langue qu'on parle, avec diversité de mots qui viennent de toutes les langues du coin. De manière différente aussi, selon dans quelle position on se situe dans cette aire géographique qui est assez vaste. Mais effectivement, et puis je pense... Au-delà de la diversité des instruments qui viendraient de différents peuples, de différentes influences en interne, je pense par exemple évidemment au Maghreb avec les musiques amazighes, il y a aussi une diversité selon le genre, la catégorie plutôt, dans laquelle on place le genre musical. Les musiques populaires n'empruntent pas n'utilisent pas les mêmes instruments que les musiques dites classiques, c'est-à-dire les musiques de palais ou les musiques qui étaient plutôt, pendant longtemps en tout cas, réservées à des classes supérieures. Et voilà, on joue pas la même chose dans un palais que dans un village.
C'est de la musique de chambre un peu, en fait.
Bah, en tout cas, la musique, par exemple, si on prend la musique classique égyptienne qui va avoir cette empreinte arabe très forte parce qu'elle va circuler et qu'elle va être écoutée en dehors des frontières de l'Égypte, évidemment, la musique sur laquelle repose par exemple le répertoire d'une Oum Kulthoum, évidemment, il va évoluer ce répertoire aussi. On n'est pas... Oum Kulthoum dans les années 20, c'est pas 30, c'est pas la même personne que dans les années 60. Dans les années 60, elle est beaucoup plus pop et elle s'est autorisée des choses qu'elle ne s'autorisait pas avant, parce qu'elle voulait pas d'ailleurs. par exemple, l'usage d'instruments occidentaux dans l'orchestre. Et du coup, oui, c'est des musiques qui sont plutôt nées dans les milieux citadins. Donc peut-être même au-delà de la dimension bourgeoise et populaire, il y a aussi cette dimension ville, campagne, qui est de toute façon assez, assez importante pour comprendre certains des pays de cette zone, quoi.
Daz, toi, par exemple, est-ce que c'est une musique que tu connais un peu ? Ça t'évoque quoi quand on te parle de musique arabe ?
Moi, je l'ai dit en off, hein, je vais être la caution occidentale. Je n'ai pas dit exactement ce terme-là tout à l'heure.
Je ne suis pas un grand spécialiste non plus.
Non, moi, en fait, effectivement, j'ai absolument zéro culture de ce genre musical. Donc pour moi, quand tu me parles de musique arabe, très logiquement, je vais aller sur le rail, tu vois. Et je sais que c'est un tout petit morceau du truc et pas forcément en plus le plus qualitatif quand on parle de ça, tu vois. Donc moi, je suis ravi d'être là parce que ça va me permettre de, enfin, de passer à l'étape supérieure et d'ouvrir un petit peu mon répertoire. Parce que là, franchement, ouais, je suis... C'est, moi, j'ai l'impression d'être sur une autre planète.
Ouais. Et c'est très dur quand même avec le rail, pas le plus qualitatif. Ah bah, tu m'as heurté.
Non, mais alors, si ça se trouve, et moi, je ne demande que ça, je ne demande qu'à entendre du bon rail.
Ah, parce que tu n'as entendu que du mauvais rail jusqu'à présent.
Moi, j'ai entendu que des trucs. Je t'avouerai que c'était pas exactement ma tasse de thé.
Mais tu penses à quoi? Tu penses à l'époque en France, Faudel,
ouais,
1, 2, 3 soleils,
Faudel et tous ces trucs-là, tu vois. Et je me dis, bah, c'est cool, ça a ses pairs, tu vois, comme on disait pas à l'époque. Mais je me dis, avec le recul, c'était un truc qui était déjà très très formaté, passage radio, machin, etc., clip et tout. Et donc, en fait, la réception que moi j'en avais, c'était, ok, ils ont adapté le truc au goût français, en tout cas. Pour que justement ça plaise à des gens qui sont pas habitués à cette musique-là, et je me dis est-ce qu'il y a du rail hardcore, tu vois?
Parlons-en peut-être. Alors on va pas vraiment parler de toutes les musiques arabes parce que c'est impossible, mais peut-être commencer à parler un tout petit peu de la musique au Maghreb. On pourrait ajouter l'Égypte aussi, l'Afrique du Nord en tout cas.
Parce que là donc on a dit qu'on partait du Maroc,
ouais,
jusqu'au Golfe, donc
c'est large.
En esquivant la Turquie. J'ai bien compris.
En esquivant la Turquie, effectivement.
Et
enfin, on peut
aussi,
faire des points avec la Turquie, j'en serais ravie. Mais effectivement, en tout cas, les musiques iraniennes et turques, ouais. Il y a toujours eu des circulations, mais après, on ne les rentre pas dans des catégories, et notamment parce que les auditeurs, enfin, la spécificité aussi de ces musiques-là, c'est quand même qu'ils ont des auditeurs. Voilà, on est un chanteur égyptien, il n'est pas écouté qu'en Égypte, quoi. Et potentiellement, un chanteur tunisien aussi. D'ailleurs, il y a des chanteurs tunisiens qui ont fait carrière ailleurs. Enfin, il y a une circulation du fait de la langue et du lien culturel et historique que peuvent se nouer ces pays, qui fait qu'en fait, c'est des musiques qui sont écoutées par un grand nombre de personnes sur un territoire très vaste.
D'accord.
Et donc ça, c'est quand même assez important pour comprendre pourquoi on dit aussi les musiques arabes, alors que des fois, il y a des grandes différences gigantesques entre les genres, quoi. Mais ça compte. Pour revenir à ta remarque sur le rail, c'est vrai qu'il y avait quand même eu bah parce que du coup je défends
tu l'as fait mal, je crois.
Je défends quand
c'était
même
pas le but, hein,
non mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que si tu te demandes si ça a pas été modifié en arrivant en Europe, et c'est
adapté, ouais,
adapté.
Ouais.
Ça c'est sûr, on le situe notamment à l'album Kouché Traled, premier album international de rail, où il y a quand même une volonté en faisant appel à Safi Boutella, qui est un jazzman, de lycée.
Ouais.
Moi, j'aurais envie de dire le rail. Ouais, okay. De lycée, parce que les instruments du rail traditionnel, après, le rail faisait un usage des instruments des cuivres.
Ouais.
Des cuivres, ça intervient dans les années 60, 70.
Et peut-être juste petite topo sur le rail, musique populaire, quelles sont ses spécificités, enfin, pourquoi cette musique a marqué, et effectivement ensuite on est arrivé peut-être en France, comment elle a été revue, quoi.
Ouais. Alors je reprends depuis le début du coup, c'est vrai que je me suis précipitée pour répondre. Mais du coup, ouais, le rail, c'est une musique algérienne qui va se diffuser très largement au Maroc, en Tunisie et en France. Je dis très largement Maroc parce que c'est vrai que le Maroc va même produire ses propres chanteurs de rail, et va, voilà, ça va être une musique très écoutée. C'est moins le cas en Tunisie. Et puis, il n'y a pas de chanteurs de rail à proprement parler en Tunisie. Il y a un public, mais ce n'est pas nécessairement le plus grand public de rail. Donc, c'est une musique qui naît dans l'ouest algérien. Cette musique repose sur un patrimoine qui est celui de l'Oranie. Donc, la région où se trouvent Sidi Bel Abbès et Oran. Donc l'Oranie prend le nom d'Oran, d'ailleurs. Et du coup, elle repose sur le bédoui. Le bédoui, c'est, donc on pourrait traduire par le bédouin, hein, c'est la musique rurale de l'Oranie, qui se chantait avec le gaspa, c'est une flûte spécifique aux trois pays, ou peut-être aux quatre. Je pense que la Libye aussi, ils ont de la gaspa, qui a une sonorité particulière, d'origine berbère. Et le galal, qui est une espèce de petite derbouka. Et c'était une musique chantée principalement par les femmes. Et c'est ces sonorités-là qui vont créer le rail qu'on connaît aujourd'hui. C'était chanté par des femmes qu'on appelait les meddahat, qui pouvaient donc intervenir pendant des mariages, ou aussi des cérémonies, par exemple, soufis, en tout cas pour des cérémonies religieuses. Ça va être aussi chanté par des hommes. Qui vont aussi emprunter à la fois au registre plus, j'ai envie de dire liturgique, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas religieux, et aussi chanter le profane. Et cette musique-là va se modifier à la rencontre de l'espace urbain qu'est Oran ou qu'est Sidi Bel Abbès, en empruntant à d'autres styles musicaux aussi de la région. Je pense au Asri, qui est une musique, un genre musical d'Oran. C'est de la variété plus. Parce que variété, je ne sais pas comment le traduire en français, mais en tout cas, le Asri, c'est Ahmed Wahbi, qui est un très grand chanteur algérien, qui en est le plus grand représentant. Donc, il fait de la musique algérienne avec un peu d'emprunt à l'Égypte. Enfin, voilà, c'est aussi un né d'une d'influence, quoi. Et le raï, on va dire, qu'on connaît, en tout cas, qui va peut-être impacter le plus le raï qu'on connaît aujourd'hui, c'est aussi l'usage, à partir des années 60, 70, des cuivres. Et de l'entrée, notamment, du saxo. On le doit à un musicien, Belémou, et à deux chanteurs, Boutaï Basrir et Boutelja Belkacem, qui sont un peu ce trio qui va renouveler le raï.
Et le faire passer, du coup, dans
quelque chose aussi qui se produit plus dans les cabarets. Enfin, d'accord. Aussi un environnement du raï qui se crée.
Parce que j'allais te dire, pour essayer de suivre le fil, c'est que moi, j'en ai l'image, par exemple, d'une musique très liée à la jeunesse, le raï, effectivement assez citadine. Et même, d'ailleurs, d'une certaine manière, parfois un peu provocatrice. Oui. Comment on en arrive à ça?
Je pense que c'est vraiment, pour moi, aussi dû à une spécificité historique d'un exode rural aussi de population. En tout cas, les musiques issues du milieu rural algérien arrivent en ville et se modifient, ou plutôt donnent naissance à une chose différente. Je sais, parce que le bédoui et le raï, c'est pas la même chose exactement. Mmh. Mais il y a cette poutre maîtresse quand même qui est là. Et c'est une musique, effectivement, qui a la spécificité d'être d'avoir été, en tout cas, celle d'une jeunesse. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, ça va se renouveler. Donc déjà, dans les années 60-70, c'est la jeunesse que représente Boutaï Basrir ou Boutelja Belkacem. Mais on va aussi connaître une autre jeunesse avec les Cheb, donc là qu'on commence à connaître, coup, mais qui arrive dans les années aussi, fin 70, et c'est des Khaled, évidemment, qui va être la grande star. Et ceux qui vont suivre, Cheb Sahraoui et le Raï, va aussi être écho de préoccupations que sont celles de la jeunesse. Pas que les hommes, mais en tout cas, les hommes vont porter des préoccupations qui leur sont spécifiques. Le rapport à l'alcool, par exemple. Le bédoui, déjà, avait cette spécificité d'être considéré comme une culture très populaire, avec vue de très haut par ceux qui faisaient de la musique, on va dire, plus classique. Et le raï va garder cette projection faite par la culture légitime, cette projection négative sur le raï, mais notamment par les propos qui vont être ceux des chanteurs de raï. Donc c'est chanter l'amour, c'est chanter la fin de l'amour, c'est chanter des textes érotiques.
Et dans le contexte culturel de l'Algérie de l'époque, n'est pas commun, et en tout cas crée un décalage entre une certaine génération et les précédentes.
Alors en fait, disons que les précédentes générations, on a aussi de ça, mais c'est toujours très imagé. En fait, pour moi, le raï se distingue en faisant vraiment usage de la langue du quotidien. Et quand je dis langue du quotidien, c'est pas nécessairement un registre de langage hyper soutenu dans la manière de s'exprimer, ou par exemple que ce serait un arabe le plus proche de l'arabe classique, c'est pas ça. C'est plutôt que, par exemple, le Chaabi pouvait parler de choses érotiques ou d'amour. D'ailleurs, l'amour, c'est un des sujets prédilection du Chaabi, donc la musique d'Alger, la musique qui est aussi
une des grandes musiques populaires de l'Algérie, qu'on trouve aussi au Maroc, en Tunisie.
Alors non.
Pas en Tunisie,
le Chaabi marocain n'est pas le même que le
Chaabi. C'est pas le même, en tout cas, le Chaabi, le terme est utilisé dans chaque fond de ces
pays. Alors
du
coup, Chaabi veut dire qui vient du peuple, populaire. Du coup,
c'est populaire.
Sauf que du coup, le Chaabi algérois a quand même. Ça s'appelle le Chaabi. Ça vient, sans rentrer trop dans les détails peut-être techniques, mais ça vient du Malhoun. Le Malhoun, c'est la poésie chantée en langue darija, en vernaculaire en fait, mais très soutenue. Le Chaabi, en fait, va naître au début du XXe en empruntant ses poèmes, en chantant ces poèmes-là, qui sont des poèmes qui datent de siècles et de siècles, et en les adaptant avec des instruments de musique, justement les mettant en musique différemment, avec la mandole, etc. Mais le Chaabi, même s'il s'appelle le Chaabi, et que c'est très populaire, effectivement, c'est très écouté, c'est quand même considéré comme la culture légitime, c'est-à-dire que c'est la bonne musique. C'est la musique des gens qui ont la classe et qui représentent la culture légitime algérienne, comme je sais pas, mais je pourrais pas peut-être pas le comparer à l'opéra en France, mais voilà, enfin, on est quand même dans, genre, dans quelque chose de revendiqué comme, comme très bien.
Classe, quoi. Ouais, vraiment,
classe et comme la musique de la nation, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Le raï, c'est pas ça. Le raï, c'est une musique qui emprunte à une langue quotidienne et qui raconte parfois de manière très crue la réalité de la vie. Et c'est ça qui modifie les choses, c'est que d'un coup, on ne fait plus usage d'un registre imagé, on le juge vulgaire, on juge que les chanteurs, même s'ils ont une belle voix, du coup, font usage de leur voix d'une mauvaise manière. Donc c'est ça, en fait, et c'est vraiment pour le coup représentatif de l'état de la jeunesse algérienne à l'époque. Et je pense aussi de l'esprit d'une ville qui est Oran, qui est une ville qui va être très vite l'épicentre de la fête en Algérie, quoi.
En parallèle de ça, est-ce que, pour étendre un peu le sujet et petit à petit aller vers le Proche-Orient quand même, l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision globale sans trop rentrer dans les détails, mais peut-être pour terminer sur le Maghreb, est-ce que même de manière générale dans les musiques arabes, on peut faire un peu ce distinguo comme il existe dans la musique occidentale de la musique savante, la musique populaire, musique profane, musique sacrée d'un côté, est-ce qu'il y a des grandes familles entre guillemets comme ça qu'on peut dégager pour rester un peu dans le général?
Oui, oui, bien sûr, la musique savante existe. C'est une musique, par exemple, pour le cas de l'Égypte, sur laquelle, qui est la musique d'Oum Kulthoum, on va dire. Mais en tout cas, pas à toutes les périodes, exactement dans sa forme la plus savante. Et c'est la musique, et c'est sur quoi même sa musique la plus populaire, c'est-à-dire la période des années 60, où elle sort des titres comme Enta Omri, qui est un banger, en fait, à l'époque, vraiment, tout simplement. C'est sa structure vient de là. Là où il y a des musiques plus populaires, qui ont souvent, comme je disais tout à l'heure, une connotation rurale, une connotation du peuple, là, pour du coup, le petit peuple. Et effectivement, il y a des genres musicaux qui sont consacrés aux religieux et d'autres qui sont consacrés aux profanes. Après, des fois, il y a des basculements. En fait, le charbi, notamment, c'est une musique qui a beaucoup chanté le charbi. Le malhoun, d'où vient le charbi, du coup. Et bah, du coup, beaucoup de poèmes plutôt d'ordre religieux. Par exemple, le bédoui s'interprétait aussi dans des contextes de confrérie, donc dans un contexte religieux. Et en fait, la modification vient quand on emprunte à ces musiques-là, à ces formes-là, qui viennent du registre plutôt religieux, et qu'on sort du cadre du fait de chanter Dieu et les louanges, quoi. Et il y a des musiques aussi qui se créent sans but de chanter Dieu, quoi.
En ce qui concerne la musique savante, la musique écrite, moi, comme ça, j'aurais tendance à plus la rapprocher ça de l'Égypte. Mais c'est peut-être une erreur, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais peut-être que ça peut nous permettre quand même de parler justement de la spécificité, notamment de l'industrie du disque égyptienne, qui a eu une place importante pour se déplacer petit à petit géographiquement.
Je suis ravie, moi je suis très égyptophile musicalement, donc c'est assez connu, donc je n'aurais pas l'impression de... Enfin voilà, c'est quelque chose que moi dans lequel j'ai baigné. Donc effectivement, l'Égypte a eu un rôle particulier. Bon déjà, c'est un pays qui existe depuis très longtemps, évidemment, l'Égypte, en tant que telle, dans ses frontières, et plus ou moins dans ses frontières, mais en tout cas qui a son... Et qui est un pays qui a eu une industrie du disque très tôt. On va dire, qui a bénéficié du développement de l'industrie sonore assez rapidement et qui s'est rapidement développé en industrie à part entière. Ça passe par plusieurs choses. C'est à la fois la création de labels de professionnels de la musique ou de personnes devenant professionnelles de la musique qui ont enregistré. Et c'est aussi dû à une industrie cinématographique très importante qui va permettre en fait à l'Égypte, à travers ses comédies musicales qui constituent son genre le plus connu à l'international et on considère souvent ça comme l'âge d'or du cinéma égyptien, va pouvoir aussi diffuser son modèle musical en dehors de ses frontières. Après, l'Égypte avait aussi a été un épicentre du pouvoir. Le Caire a été capitale pendant longtemps sous les Fatimides, et donc avait aussi une musique savante qui s'est développée au fil des années et sur laquelle repose, on va dire, le style musical où, quand on pense musique classique, comme je disais, je fais le parallèle avec Oum Kulthoum, on pense à ça, mais comme je disais, elle repose ça sur des styles musicaux qui sont nés au 19e siècle, quoi.
Quand on parle de musique classique, est-ce qu'il faut le rapprocher de la musique classique occidentale ou c'est juste le fait qu'elle soit inscrite depuis longtemps dans un patrimoine, une filiation, un apprentissage, etc., fait qu'on la considère comme classique, mais que d'un point de vue sonorité, c'est pas similaire à la musique classique telle qu'on l'imagine en France, par exemple?
Ah non, c'est pas similaire du tout. Mais en fait, c'est, je pense, la portée symbolique qu'on met dans ces musiques. Encore une fois, pour moi, c'est les musiques dites de la culture légitime, de la culture du pouvoir ou des gens qui en ont. Pas nécessairement parce que quelqu'un comme Oum Kalthoum, enfin, je veux dire, quelqu'un comme Oum Kalthoum va justement populariser ses musiques auprès de tout le peuple égyptien et bien au-delà. Mais à la base, c'est des musiques qui font partie des codes
du bon goût. De la société.
Ouais, du bon goût, quoi. Ouais. Et c'était d'ailleurs des musiques, elle a commencé. Elle a commencé, l'enregistrement sonore existait déjà, donc elle a commencé à se diffuser et à devenir populaire assez rapidement par sa voix. Mais ses prestations sur scène étaient au départ réservées à l'élite. Bon, ça l'a toujours un peu été, dans le sens où il fallait pouvoir se payer une place pour aller voir Oum Kalthoum, mais je parle de représentations dans des palais sous le roi Foued et Farouk, donc les deux derniers rois d'Égypte. Foued étant un mécène de la musique, on va dire, un mécène de la production musicale et cinématographique, c'est quelqu'un qui a plutôt poussé l'Égypte à la production, et qui pouvait se représenter dans des maisons bourgeoises pour se faire connaître. Donc c'est aussi ça qui distingue...
Il y a aussi un aspect politique, en fait, derrière, d'utiliser la musique aussi comme véhicule d'une culture et pourquoi pas d'un pouvoir et de la résonance d'un pays,
c'est ce que alors à l'époque de Foued, oui, sans doute, bien sûr, mais après c'est vrai que ça a toujours été
après avec Nasser, par exemple.
Oui, ça c'est le soft power égyptien dans toute sa splendeur, on va dire, dans le sens où il y a vraiment une volonté de diffuser le modèle égyptien de pensée, on va dire, parce que c'est pas nécessaire, ouais, le modèle politique par d'autres moyens, le modèle culturel par le cinéma. Même si en fait finalement Nasser va faire des choix qui vont rendre le cinéma moins populaire. Je dis ça parce que en fait le cinéma égyptien n'est pas d'initiative politique nécessairement, ni d'investisseurs privés qui investissent dans cette nouvelle technologie qu'est le cinéma. Et rapidement, bon, quand les films parce que c'était d'abord en muet passent, on peut du coup entendre les acteurs. Très rapidement, l'Égypte se lance dans la comédie musicale. Et développant ses propres codes musicaux qui vont rendre ce cinéma très populaire. Et ben Nasser, typiquement, il va te considérer que ses films, c'est bidon. Même s'il aime bien certains des chanteurs et tout, c'est bidon, c'est pas le modèle socialiste, c'est pas le vrai peuple égyptien, c'est les bourgeois, enfin c'est la vie des bourgeois qui est racontée, et il va plutôt promouvoir des films très socialistes.
Il faut se replonger, dans le contexte politique de l'époque. Ouais. C'était l'alliance de différents pays qui se voulaient une alternative dans le monde, notamment à la puissance américaine, etc.
Oui, complètement. C'était l'ère du panarabisme porté par Nasser, et puis des non-alignés. Donc on est sur un contexte politique en opposition, qui se construit en opposition. Mais
et
qui
la
se construit...
culture a un rôle là-dedans, quoi.
Bah, en tout cas, ça se construit aussi en opposition au passé monarchique de l'Égypte et à cette musique venant du palais. Je dis ça parce qu'en fait, à l'époque où Nasser devient président de l'Égypte, après un coup d'État, le militaire, du coup, parce que Nasser est un militaire à la base, les figures qui vont émerger, c'est des figures de jeunesse que vont représenter quelqu'un comme Abdelhalim Hafez, qui est un chanteur très populaire. Et c'est c'est une musique plus que je trouve plus pop, déjà, d'une part. Et c'est des figures très jeunes. Prenons un autre exemple, dans une actrice, mais qui faisait aussi office de chanteuse parfois dans des films, Sourat Hosni. C'est la fille libre, très jeune, très moderne. On est sur d'autres codes, en fait. Une autre jeunesse que la jeunesse qui a été celle de l'époque monarchique, mais aussi cette époque monarchique constituant quand même ce qu'on appelle l'âge d'or de la musique égyptienne. Après, il y a des gens qui perdurent, Oum Kalthoum en l'occurrence, qui a la spécificité de savoir s'adapter, d'une part, d'autre part d'avoir été très pro-Nasser, et qui va mettre sa voix au service de l'Égypte. Je dis ça parce que notamment, après la défaite de 67, elle fait une tournée mondiale pour renflouer les caisses, quoi. Tout simplement.
Ça s'est fait en opposition à ce qui était la bonne musique égyptienne jusque-là ?
Pas totalement.
C'est-à-dire qu'ils l'ont reprise et après ils se la sont réappropriée ou
Alors du coup, la musique égyptienne se diffuse plus massivement à travers les films. Et ces codes qui sont ces codes musicaux vont se développer largement à cette époque. Donc on est dans les années 40, 50, 60. Mais ça avait déjà un peu commencé avant, mais il y a plus d'emprunts à des instruments occidentaux qui interviennent. À partir du moment où on est dans les années 50, 60. Pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un comme Abdel Wahab. Abdel Wahab, c'est un chanteur très important en Égypte, un très grand musicien, un très grand joueur de oud d'ailleurs, en l'occurrence. Et lui, il a souvent fait de la musique très classique et à la fois il a toujours été porté sur d'autres styles musicaux qui sont pas arabes en fait, le jazz notamment. Il a pu d'ailleurs développer ça dans sa musique. C'est une personne qui modifie la musique dite classique égyptienne assez rapidement dans le temps, mais il y a des gens qui refusent de participer à ce qu'ils considéraient comme étant travestir la musique. Oum Kulthoum, elle l'a refusé pendant très longtemps. Et elle n'aimait pas Abdel Wahab pour plein de raisons, mais en l'occurrence, je pense qu'elle portait pas forcément en haute estime sa musique.
Ouais.
Et pourtant, je pense que pour un auditeur occidental, ce serait un peu la même chose, quoi. Enfin, ce serait très proche, quoi.
Ouais, on ferait pas la différence.
Mais du coup, par exemple, quand ils vont collaborer, sur demande de Nasser d'ailleurs, elle va finir par accepter qu'il y ait une guitare électrique.
D'accord.
Et c'était mort, quoi.
Ouais.
Non, c'était vraiment pour elle hors de question.
D'accord.
De faire ça.
Donc là, c'est même plus de l'adaptation, là. C'est l'adaptabilité. C'est carrément retourner sa veste, en fait.
Bah, en fait, c'est hyper léger, quand même. C'est pas non plus. Non, c'est un petit moment de. Il y a des gens, voilà, Abdel Halim, pourquoi il modifie la musique. Je vous parlais de lui, ce jeune de l'ère nassérienne. C'est que c'est aussi un des premiers qui va. Donner une vraie place à des instruments qui ne sont pas des instruments classiques dans l'orchestre. L'accordéon.
Ah ouais. Est-ce que c'était une bonne idée, ça?
Ouais, je suis pas sûr.
C'est beaucoup plus pop. Du coup, pop dans le sens, en tout cas, qui se rapprocherait de la musique européenne, quoi.
Ouais.
Et en fait, on faisait pas de la musique comme ça par le passé, quoi.
Mais donc ça, c'était une volonté, justement, de conquérir des marchés ou
non,
juste
je pense
d'être
que...
dans l'air du temps et de...
Ouais, je pense que c'est plus une question d'air du temps.
Ouais.
Et je pense que c'est des personnes qui étaient réellement aussi intéressées par d'autres...
Par ce qui se passait ailleurs.
Ouais, d'autres façons de faire de la musique. Parce que moi, je vous citais Abdel Wahab, donc il pouvait faire des trucs hyper classiques et à la fois, il adorait la rumba.
Okay.
Et des fois, même des gens qui faisaient des trucs très classiques, en fait, faisaient des réadaptations de chansons de rumba. Moi, je pense à... Mohamed El Kassabji, qui est le plus grand luthiste de l'histoire, et qui était le
selon qui? Selon toi?
Selon moi et selon plein de gens. Ouais, c'est globalement, tout le monde est d'accord sur ça. Et c'était le luthiste d'Oum Kulthoum et un compositeur. Et il compose pour la chanteuse Asmahan, qui est très connue aussi, mais qui a une vie très courte. Elle est décédée dans un accident de voiture très jeune. Une chanson qui est basée en fait sur une rumba.
Parce que, si je comprends bien, donc on a la musique classique, on a des musiques plus populaires. Là, on parle d'une époque, en parlant globalement de l'Afrique du Nord, hein, toujours, une époque où ça s'ouvre à des styles plus européens, comme tu le dis. On pourrait se poser la question, d'ailleurs, parce que c'est quand même des territoires aussi qui ont été marqués par une histoire coloniale, que ce soit vraiment en tant que territoire français pour l'Algérie, ou des mandats pour les autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà, avant ça, des croisements, des mélanges et...
Alors, moi, je ne suis peut-être pas la plus habilitée à répondre à cette question. Ça a dû exister, mais là, je n'ai pas forcément d'exemple en tête. D'autant plus que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas d'enregistrement sonore de ces musiques-là. On a des enregistrements qui naissent à l'époque coloniale.
Mmh.
La technologie de l'enregistrement, c'est une technologie qui a été créée par les Européens et qui a été... Qui a été développé après, d'ailleurs d'abord par des Européens aussi, hein, parce qu'il y a des entreprises comme Gramophone, ils y voient tout un intérêt à ce qu'il y ait un marché et qu'il y ait des indigènes qui achètent de la musique.
Ouais,
quoi. Donc on est quand même aussi dans un contexte où ces pays sont de toute façon sous influence voulue ou forcée. Donc, et après on fait ce qu'on veut. De ce qu'on nous a imposé.
On
se le réapproprie. Donc c'est aussi ça l'histoire des musiques arabes, comme de tous les territoires qui ont été sous colonisation, sous domination coloniale. Mmh. C'est qu'il y a des choses qui arrivent sur le territoire et tu te les appropries pas, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'ils entendent et qu'ils écoutent d'autres musiques pour certains musiciens qu'on a pu citer. Ça circule par intermédiaire de la radio, parce qu'il y a aussi des colons dans ces pays. Une ville comme Oran a pu être influencée par les musiques espagnolisantes, espagnoles, jusqu'à dans sa langue. D'ailleurs, l'Oranie a des emprunts à l'espagnol, mais parce que c'était un territoire qui a été occupé par l'Espagne, et qui par ailleurs contenait... Il y avait une importante communauté pieds-noirs d'origine espagnole, que les gens entendent. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont plus leur style propre, mais ça veut dire qu'il y a des influences.
Ouais, bah, oui, c'est forcé. Ouais.
Et dans les deux sens, même si forcément qu'on est dans une position de domination, on regarde de haut l'autre. Donc on est sur autre chose, quoi.
Et je ne sais pas si c'est une question bête, mais est-ce que aussi, dans le rapport au passé, à la colonisation, il y a un changement au moment où la jeunesse est plus à même de reprendre des codes de l'ancien colon quand même, des Européens, et se dire « cette musique, elle me parle quand même, c'est le son de la jeunesse », alors que c'était plus difficile dans les générations précédentes parce qu'il y avait encore ce conflit.
Alors, je ne saurais pas répondre, mais en tout cas, je pense que déjà, il y a une plus large capacité de possibilité d'écoute pour ces populations après l'indépendance, où une population est sous domination occupée à survivre, c'est sûr qu'ils ne sont pas en train de s'enjailler sur la musique du colon. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas envie de s'enjailler dessus, c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès, ou un accès large. Ce qui se passe aussi à l'indépendance, c'est qu'on est dans un monde mondialisé, et les musiques circulent, et donc on écoute, on écoute les Rolling Stones en Algérie, en Tunisie, ailleurs, quoi. Et les gens ont pu... ça n'a pas nécessairement été des grandes stars, parce que le goût du public, c'était peut-être pas... Du grand public, on va dire que c'était pas ça, mais il y a eu des rockers, et il y en a encore, en fait. Par exemple, l'Algérie, c'est un pays très rock, en réalité. En tout cas, il y a même des territoires en Algérie, je pense à l'Est algérien, les Chaoui, du rock Chaoui. Et je pense pas qu'ils se posent des questions de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce que c'est ça aussi l'avantage de la musique, pour le coup.
Est-ce que ça va, tu suis pour le moment, Dan?
Ouais, complètement.
On est un peu dans le détail, on vous avouera, moi j'arrive en tout cas à peu près suivre, j'espère que c'est votre cas aussi. Mais ce que j'aime bien en fait dans cette discussion, c'est qu'on voit à quel point c'est en mouvement, c'est vivant en fait la musique, quoi. Dans ce contexte-là, qui est particulier certes, mais qui est valable un peu partout. Et j'aime bien, moi, comment ça rapproche ça, de se dire, c'est vivre, c'est le quotidien, c'est ce qui se passe, etc. La musique, et tout ça nourrit après l'art et ce qu'on en fait, quoi.
Mais alors le rail?
Le rail. On t'a dit qu'il y avait du bon rail, toi tu dis qu'il y a du mauvais rail. Il y a du rail tout court, je sais plus ce que je veux dire sur le rail. Est-ce qu'on pourrait parler aussi rapidement, de manière plus générale, parce que là on était sur l'Afrique du Nord, de la place de pays comme le Liban, qui ont aussi une des plus grandes chanteuses, Fairouz par exemple, les Libanaises.
C'est un territoire qui était avant, on va dire, il n'y avait pas de frontières, il n'y a pas les... Liban, les Syries, voilà. Donc ils ont en commun d'avoir une langue, la même langue, parlée, si ce n'est des variantes d'accent, de vocabulaire assez minime, et aussi des patrimoines, un patrimoine musical commun. Moi, je pense notamment à la debké, qui est la musique commune. En Europe, la debké est plutôt vue comme étant une musique libanaise, mais en fait, c'est une musique qu'on retrouve partout, qui est une musique populaire, qui se danse en fil.
En fil? Ah oui, en file indienne, quoi. Enfin,
quoi. En ligne, c'est plus cohérent. En ligne, avec les pieds, etc., avec des pas. Okay. Cette musique est une musique de montagne. En tout cas, pour le cas du Liban, ça peut pas forcément être de la montagne, mais une musique partagée, en fait, entre ces pays. Le Liban, en termes de, on va dire, plus internationalement, plus régionalement, va avoir son importance dans le sens où les Libanais sont très influencés par la musique égyptienne. On a aussi beaucoup de stars libano-syriennes qui vont faire carrière en Égypte. L'Égypte va être nourrie de cette présence, de la présence des Levantins, comme on dit, qui vivaient au Caire et qui vont aussi avoir leur rôle dans le fait que l'Égypte va devenir une grosse industrie, que le Caire va devenir la capitale de la musique. Mais ce qui va se passer avec quelqu'un comme Fairouz, c'est qu'en fait, elle va mettre en avant un moment où l'Égypte était maîtresse de toute la diffusion. Et très populaire, elle va chanter déjà avec l'arabe libanais. Elle va assumer plus facilement de s'éloigner des codes esthétiques de la musique savante et des codes esthétiques de la musique savante qu'on doit à l'Égypte, mais pas que, puisque comme je disais, il y a aussi ces instruments qui se retrouvent partout dans les orchestres, qui sont considérés comme les bons instruments, etc. Il y a deux modifications notables, c'est qu'elle va, par exemple, beaucoup s'inspirer de la debké pour une partie de sa carrière, de cette musique populaire libanaise, où elle va en faire une espèce de debké soutenue, on va dire. Et elle va aussi échanger dans les formats. Fairouz, c'est quelqu'un qui va rapidement chanter des chansons plus courtes que ce qu'on connaît, qu'une chanson d'une Oum Kulthoum qui peut durer une heure et demie, quoi.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé de... On l'avait fait en off, mais effectivement...
Des formats, effectivement,
c'est intéressant. Le format en termes de durée, c'est vraiment spécifique. Là.
Alors du coup, comme je le disais en off tout à l'heure, en fait, c'est que les musiciens sont autant chanteurs que la chanteuse, d'une certaine manière.
Okay.
En fait, pour moi, dans une chanson d'Oum Kulthoum, les musiciens sont des chanteurs à part entière. Ils ont leur moment, il faut du temps pour qu'ils puissent faire leur performance.
Mais on parle d'ensemble de combien de personnes à peu près
Alors il y a, ça dépend du nombre selon les artistes et la taille de l'orchestre, mais t'as nécessairement un rik. Rik, c'est un tambourin. T'as le ney, qui est la flûte qu'on retrouve en Iran, en Turquie, qui est une flûte spécifique à la région. On retrouve le oud, on retrouve le kamanje, qui est le violon arabe. Donc il y a ces instruments-là qui sont représentés.
C'est là, en tout cas, comme instrument.
Et il y a le qanoun. Le qanoun dont on parlait au début d'émission. Du coup...
Combien de personnes sur scène
combien de personnes sur scène? En plus, normalement, je connais le nombre de... Je dirais que...
Parce que c'est très codifié.
Oui, tout. Ouais. Alors du coup, et surtout pour quelqu'un... Par exemple, pour prendre Om Kulthum, puisque c'est la plus connue et qu'en même temps, c'est le meilleur exemple, on va dire. Ouais, c'est le meilleur exemple. Je ne me passe pas, on va dire. Mais du coup, l'orchestre d'une dizaine de personnes doit la suivre. C'est-à-dire qu'elle peut faire de l'improvisation, l'orchestre doit être en mesure de suivre. Et c'est ça qui... C'est qu'en fait, la musique savante, classique, repose sur beaucoup d'improvisation. Après, c'est aussi vrai pour les musiques populaires, en fait. Les musiciens, ils ont intérêt à suivre derrière pour pouvoir tenir le truc, parce que... mais l'improvisation, elle est hyper importante parce que la manière dont on chante ces musiques repose sur ça. En fait, une interprétation d'Om Kulthum, ce n'est jamais la même sur les enregistrements live parce qu'elle peut modifier les variations de sa voix sur un mot et ça peut prendre 10 minutes.
Donc c'est en fait ce que
ou répéter un mot et en fait en faire des variations, ce qui provoque le tarab, la transe.
D'accord.
Et ce qui met le spectateur dans un état de transe.
Ça peut durer une heure et demie.
Ça peut durer une heure et la transe est provoquée notamment par ce jeu de variation de voix, de vocalise, etc. Sur une partie du texte. Mais elle n'est pas obligée de toujours. Enfin, voilà. C'est pas toujours le même moment.
Et donc Férouz, elle, quand elle.
Alors Férouz, elle chante pas comme ça, du coup.
Voilà, elle vise des formats qui sont plus.
Plus courts. Alors il y a aussi une explication historique. Alors déjà, c'est que Férouz, c'est pas Férouz seule. Férouz, c'est Férouz et les frères Rahbani, qui en fait sont Rassi et Mansour, deux compositeurs, qui sont deux frères. Rassi étant l'époux de Férouz. Et c'est eux qui vont assumer plus grandement. Alors, c'est des très grands connaisseurs de musique classique arabe et très grands amateurs, etc. Mais ils vont assumer d'autres influences, plus jazz, plus ce qui se passait ailleurs, aussi une influence des chants liturgiques traditionnels chrétiens, puisque Férouz est chrétienne, et ils le sont aussi. Ils ont une formation à l'église. Donc déjà, cette influence qui modifie la musique, qui en fait un standard très différent de la musique égyptienne. Et Férouz, elle ne fait pas... Elle fait pas des ha-hat qui durent ha-hat, donc du coup c'est de jouer sur le ha. Et des vocalises, c'est des ha, dans plein de. Enfin, je ne sais pas le faire, mais du coup.
Il va falloir t'améliorer là. On voit des démos en direct.
Du coup, ouais, c'est pas trop mon expertise pour le coup, mais elle joue pas trop sur ça dans sa manière de chanter. Et elle fait des formats plus courts, mais les formats plus courts, parce qu'elle a pu faire des formats longs aussi, jamais aussi long qu'en musique égyptienne. Ceci dit, elle a pu faire des formats plus longs, mais ce qui va modifier ça, c'est aussi que Férouz, elle émerge à travers la radio. Elle est repérée par le directeur de la radio du Proche-Orient. À l'époque, la radio du Proche-Orient, c'est une radio mandataire britannique, avec de la programmation en anglais et de la programmation en arabe. Et elle est repérée par le directeur de cette radio qui voit son talent et qui propose à elle et aux frères de composer de la musique et de chanter. Et c'est ça qui va la rendre très très populaire d'ailleurs. Elle va se faire connaître d'abord par l'intermédiaire de la radio, elle va être diffusée. On l'appelle Emelette al-Sabah d'ailleurs, la princesse du matin. Parce qu'on écoute Férouz le matin, on écoute Om Kulthum le soir. Ça, c'est une tradition assez partagée dans tous les pays.
Est-ce que juste on peut dire que c'est d'une certaine manière un produit un peu de l'industrie aussi, en tout cas très accompagné.
Ouais. En tout cas, elle émerge dans une période où c'est aussi comme ça qu'on se professionnalise. Et en fait, ils vont être contraints par des durées en fait de radiophoniques, par des programmes, et notamment les musiques devaient être intercalées par des pubs. Donc on fait des chansons plus courtes.
Voilà.
Et aussi
une fois, le consumérisme.
C'est comme dans le sport, ils hachent de plus en plus pour foutre des pubs. Là.
Donc voilà, après, du coup, Férouz, dans ses enregistrements en studio, les chansons sont plutôt courtes, en tout cas, Parfois, c'est plus long que le standard européen, qui est de 3-4 minutes.
Voilà, plutôt court, on est sur quel...
Bah, on peut avoir des chansons... après, elle a une carrière très longue. On peut avoir des chansons qui durent 4 minutes, on peut avoir des 10 minutes. Mais c'est court, quoi. Ouais. C'est pas considéré comme long, quoi. On n'est pas sur... Et l'orchestre prend... L'orchestre...
Du coup, l'orchestre reste un orchestre, alors.
Voilà, il prend moins de place, en fait. Il n'a pas la même importance. Et du coup, oui, elle devient aussi populaire parce qu'elle propose autre chose à une époque où, en fait, encore une fois, il y a une jeunesse, il y a d'autres envies, quoi.
Et est-ce que il y a un mouvement parallèle en Afrique du Nord aussi est-ce qu'elle va, d'une certaine manière, va faire office de modèle et derrière, le monde arabe de manière générale va aller vers des formats plus courts, ou en fait elle s'inscrit juste dans un mouvement qui avait déjà débuté avant elle, et globalement, un peu partout, on se dit on va faire des morceaux plus courts parce qu'il y a la radio, parce qu'il y a machin, etc.
Alors tout le monde fait des morceaux plus courts, tout le monde. Déjà il y a l'influence coloniale de fait sur la musique, mais aussi on est sur la contrainte de l'enregistrement sonore. Ouais. À partir du moment où on enregistre des sons sur les 78 tours, etc., on peut pas enregistrer une chanson qui dure une heure. On peut d'ailleurs même pas enregistrer une chanson qui dure 20 minutes. Enfin voilà, au départ, on pouvait enregistrer assez peu de choses. Et c'est ça qui circulait. Alors il y avait l'écoute radio, très importante. Mais quand on veut posséder la musique, il faut qu'on passe par l'achat. Et cet achat fait qu'en fait, on a une musique amputée. Amputée de parfois de sa réalité musicale, en fait. Donc on va choisir les meilleurs moments. De fait, les gens s'orientent vers des sons plus courts parce qu'il faut vendre des disques.
Il
y a une réalité technique, mais ça, c'est une réalité qui va s'imposer à tous et toutes. Et je pense que ça a eu... j'ai pas de connaissances particulières sur les musiques européennes, mais c'est sûr que ça a influencé la manière d'enregistrer, de chanter,
de faire de la musique,
de composer. Ouais. Et donc voilà, ça en passe par là. Ensuite, il y a évidemment la radio, qui est pas une radio. Les radios n'étaient pas consacrées... à la musique, hein, tout le temps. Donc, pareil, la radio provoque qu'on fasse plus court. Après, je pense que dans le trio, la Sainte Trinité, comme on les appelait, Arras, Mansour et Fayrouz, dont je vous parlais, il y a aussi une volonté manifeste de proposer autre chose, d'être sur autre chose. Donc, on fait plus court. Après, on trouve un arrangement, on ne va pas faire 2 minutes, quoi. Une chanson de Fayrouz, ça ne dure pas 2 minutes. Mmh. De fait, ça ne dure pas 3 minutes, même s'il y a des chansons un peu plus courtes. Mais c'est un peu plus tard dans sa carrière, on est quand même sur 1 minute, enfin vraiment on est quand même sur... mais c'est considéré comme court. Et après aussi, je pense qu'on est sur... Ouais, on est quand même sur... ouais, c'est court, moi je trouve. Après j'adore Fayrouz, elle a une place très 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 importante dans ma vie. Mais c'est considéré comme court. Et il y a des gens qui n'aiment pas parce que c'est court en fait. Ouais. En fait, on n'a pas le temps de savourer le morceau. Une Fayrouz, c'est pas la même voix que Nomkulfoum non plus aussi. Et je pense qu'il y a aussi des questions plus... vocales qui font qu'en fait là d'un coup quelqu'un qui apparaît comme elle dans la scène musicale elle va rencontrer un public un très 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 large public elle a une voix plus alors ça se modifie aussi au fil de sa carrière mais comme Nomkulfoum elles avaient des voix plus forcément en jeune fille plus aiguës mais Nomkulfoum elle a des fois on peut ne pas savoir si c'est un homme et une femme qui chantent. D'accord. Et c'est aussi ça qui fait son succès à Nomkulfoum. Fayrouz, c'est quand même une voix différente. Et elle ne chante pas à la manière d'eux. Elle ne chante pas à la manière dont Nomkulfoum.
Ah oui.
Donc elle ne chante pas à la manière de la plus grande chanteuse. Elle propose autre chose et je pense que ça contribue largement à son succès et à une estime réciproque de l'une pour l'autre.
Toujours pour finir un peu notre cartographie, la place du golf. À ma connaissance, l'Irak, par exemple, c'est un pays important de musique. J'avoue que l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., je connais quasiment... Enfin, je connais rien, en fait, même du tout. J'ai l'impression que ça a beaucoup moins marqué. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, très largement, le pays le plus important, mais qui est en espèce d'entre-deux, c'est pas un pays du Golfe, c'est un pays du Proche-Orient, enfin, si on considère que ces divisions sont légitimes, hein, c'est l'Irak. L'Irak, c'est un pays même de le oud irakien. Enfin, ils ont même créé des instruments spécifiques. Il y a une place immense de l'inventivité irakienne, notamment dans la construction d'instruments et dans la composition qui en fait un pays très important. C'est pas nécessairement le pays où les chanteurs sont les plus écoutés, mais pareil, en fait, pour être écouté, il faut faire pendant longtemps et même encore aujourd'hui, il faut aller en Égypte.
Encore aujourd'hui ?
Bon, après, il y a toujours des cas différents, mais je veux dire, si tu vises un auditoire qui irait sur tous les pays de langue arabe, ouais, faut quand même mieux aller en Égypte, quoi.
Ah, bon, après, il y a le cas.
Oui, c'est toujours le cas, sauf que maintenant, on en reparlera après, mais on est dans l'ère de la pop, plus. Donc, en fait, bon, il y a aussi des. Mais tu y vas pour faire de la pop maintenant, mais de la pop à l'américaine, du coup. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être célèbres sans passer par l'Égypte. On prend typiquement les chanteurs de rail. Hein. Ils n'ont pas eu besoin d'aller en Égypte pour ça. Ils sont allés à Paris. Mm-hmm. Mais ils auraient pu, je pense, très sincèrement, le devenir sans faire cette étape parisienne. Parce que, pour moi, ça aurait fini par déferler sur les pays du Proche-Orient, de fait. Mais bon, il y a eu cette course parisienne, mais les circuits sont pas les mêmes aussi selon où se trouve le public.
Ouais,
et pour le cas de l'Algérie en particulier, le public il se trouve aussi en France. Donc
c'est l'histoire d'immigration.
C'est l'histoire d'immigration, c'est l'histoire coloniale. Il y a plein de raisons qui font que le public se trouve aussi en France. Mais l'Irak, oui, a une importance. Il y a aussi des très très grands chanteurs irakiens, Naveh Melrazali, Salima Mourad. Donc ça date aussi un peu, on est dans les années 40, 50, mais c'est des chanteurs qui sont reconnus comme étant parmi les plus importants des musiques classiques. Là, pour le coup, musique classique irakienne. Quant au golf, le golf, alors la particularité de ne pas avoir été jusqu'à très récemment populaire, dans le sens pas forcément très écouté. Il y avait toujours des chanteurs qui émergeaient. Mais voilà, c'est par exemple... Abdelmajid Abdal, qui est un chanteur saoudien, plutôt très populaire, écouté, qui a son public ailleurs. Mais c'était plutôt plus marginal, on va dire. Ils ont aussi leur spécificité musicale, propre à leur histoire et à leur culture locale. Hein. Culture bédouine, avec des instruments plutôt issus donc de cette culture-là. Mais depuis 10 ans, on va dire, c'est devenu un épicentre aussi. Par rapport au manque de moyens de plus en plus criants en Égypte, l'Égypte se renferme et ne développe plus son industrie musicale comme avant, et un afflux d'argent du Golfe qui permet aussi aux artistes de se produire sur scène, sur place, et d'être financés, de pouvoir aussi être produits. Moi, je pense notamment à la création de Rotana, qui va quand même profondément bouleverser le marché du disque dans ces pays.
C'est quoi Rotana ?
Alors, Rotana, c'est une chaîne, en fait, c'est un groupe télé qui va être créé par un prince saoudien, avec la volonté de faire un MTV, l'équivalent d'un MTV.
D'accord.
Et qui va, du coup, envahir les écrans avec des chaînes de clips continues, avec aussi même le rachat, je ne sais pas si c'est le rachat légal ou non, en tout cas, l'acquisition du patrimoine cinématographique égyptien pour le mettre sur des chaînes où on passe toute la journée des films comédies musicales égyptiennes. En tout cas, il s'accapare un marché du disque et le patrimoine d'autres pays, par ailleurs, par la même occasion. Et c'est sur un modèle très américain de la musique, quoi. Après, c'était évident que ça allait arriver dans ces pays, parce qu'en fait, les Britney Spears ont influencé le monde entier, je veux dire. C'est pas... je me rappelle quand Britney Spears... Alizé est arrivée en France, j'étais assez petite, mais on se dirait que c'était la Britney Spears française, machin. Bah, les Arabes aussi, ils ont eu une Britney Spears qui s'appelle Nancy Rajram, qui est libanaise, et qui va répondre au même code de la Lolita que dans le modèle américain.
Culturellement, ça bloque pas à un moment donné.
Non.
Quand on parle des pays du Golfe, qui sont peut-être un peu plus rigoristes.
Je pense qu'en interne, effectivement, les personnes résidentes dans leur pays n'ont pas beaucoup de droits.
Ouais.
Mais que dans la manière dont ils se font de l'argent, ils sont pas très regardants, en fait.
Ok.
Et c'est aussi des consommateurs. Hein. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est aussi un public qui est friand de musique en général, et que malgré le rigorisme de ces États, ont toujours écouté de la musique, en fait.
Non, mais je pense naïvement en me disant que si on a une volonté d'influencer culturellement une zone géographique en injectant des capitaux, moi, je pars du principe que ils essayent aussi de d'influencer leur vision
culturelle, ouais. Presque qu'uniquement industrielle.
Alors du coup, pour la musique, c'est pas nécessairement sur les codes du soft power traditionnel du golf,
ouais.
Qui est plutôt basé sur le wahhabisme, donc leur doctrine religieuse. Là, on est sur aussi une volonté de taper fort, d'être populaire. Et en fait, pour moi, le modèle... Rotana, c'est le modèle américain, en fait. C'est le modèle, comme je disais, MTV. Ouais. Donc, en fait, on fait de la musique rapide, quoi. Mmh. Après, moi, je suis pas contre. Et puis, il y a des Nancy Reagan, j'adore. Voilà, qui est une star absolue, etc. Bon, après, Nancy Reagan, elle a aussi été produite au Liban. Je veux dire, c'est plus... les stratifications sont plus compliquées. Mais en tout cas, ils ont de l'argent pour produire, ils ont de l'argent pour diffuser. Et de fait... Comme les autres pays, c'est difficile quand même d'être un artiste, d'être payé convenablement pour des problématiques de droits d'auteur. T'as plein d'artistes qui vont faire de la musique religieuse, comme on dit, ou façon religieuse, c'est-à-dire du golf. Religieuse, c'est le golf. Religieuse, c'est à la façon du golf, quoi. Et du coup, ils vont produire aussi dans cette esthétique-là, musicale-là. Après. Bon, ça donne des chansons très pop, commerciales, machin. Mais le patrimoine musical, qui est le patrimoine du golf, est quand même un patrimoine très important, avec des très divers. Parce que quand on rentre dans le Hijaz, qui est donc, on va dire, le centre de l'actuelle Arabie Saoudite, mais là où se trouve la Mecque, Médine, etc., c'est pas la même musique, c'est une musique de l'intérieur. Là où, par exemple, sur la côte, ça va être une musique de marin.
D'accord, ouais, ok.
Donc avec d'autres influences. Donc, eux aussi, ils ont un patrimoine qui est très beau, mais actuellement, ce qui est proposé, c'est pas d'écouter cette musique-là, c'est d'écouter de la pop musique avec des sonorités.
Avec tous les codes pop.
Avec tous les codes pop, et souvent d'ailleurs chantés par des chanteurs qui ne sont pas du tout, en fait, parce qu'il y a très peu de chanteurs. Ça commence à émerger. La première chanteuse du golf. Sur ce modèle plus pop culture, c'est Beltris, qui est émiratie, si je ne me trompe pas. Elle a des origines yéménites aussi, je crois, mais qui est émiratie de nationalité. Et c'est finalement assez tardif, hein, alors qu'une Nancy Reagan, elle émerge le Liban l'an 2000, 2001, il nous offre la Britney Spears des Arabes. Finalement, pour le golf, ce modèle de chanteuse, on va dire, voilà, pop. Ça arrive en 2015, 2016.
Donc, très tardif. Ouais.
C'est plus tardif. Et ça correspond aussi à des évolutions internes à la société ou à la politique étrangère de ces pays.
Ouais. Mais du coup, en termes de... parce que moi, je ne vois pas du tout à quoi ça ressemble musicalement, tu vois, mais du coup, ça ressemble à la Britney Spears de 99 ou...
Bah, en fait, du coup, ça ressemble à de la Britney Spears 99 à quelques sonorités arabes. Enfin, tu vois, c'est... Alors bon, maintenant, on est quand même plus sur des chansons qui ressemblent à des chansons très anglo-saxonnes, commerciales, à l'américaine. Mais au départ, il y a toujours une volonté quand même de mettre des instruments qui sont locales, quoi.
Ouais.
Enfin, ou même quand c'est pas des instruments, c'est ce qu'on, si c'est des logiciels, ce sera des sonorités, quoi.
Ouais. En tout cas, quand on fait un tour sur, il y a plein de playlists, par exemple, sur Spotify, sur les tubes du Moyen-Orient, etc., Proche-Orient, actuellement, et on voit, clairement que ça va reprendre les gimmicks à l'autotune, tels qu'ils se font à fond dans la musique occidentale. On va avoir des rythmiques parfois même un peu reggaeton, ça peut arriver. Il y a des trucs, très inspirés aussi un peu du hip-hop ou du rap. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, il y a plus un gap important dans l'esthétique, avec par contre des particularités. Alors l'inventivité, etc., ça j'en sais rien, je connais pas assez bien. Mais avec par contre effectivement des sonorités, des violons peuvent revenir parfois, des mélodies plus typiquement arabes reviennent. Ouais. Dans le chant aussi, il y a des moments où on revient. Ça peut être sur un refrain à côté d'un truc en parallèle. Enfin, c'est un peu le sentiment. Je suis pas expert du tout, hein, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu en parcourant un peu toutes ces
musiques. Complètement. Il y a quand même focalise.
Justement, là, avec l'autotune, ça doit être incroyable.
Mais qui sont pas très réussis, à mon goût, pour la plupart du temps. Et puis, t'as, voilà, des sonorités, je trouve que ça repose beaucoup, parce que même les chanteuses à voix, quand elles se mettent à ce type de musique, on n'a pas vraiment l'occasion d'entendre l'étendue de leur talent, voilà, parce que c'est quand même des registres plaisants. La problématique aujourd'hui, c'est tant qu'il n'y a quasiment que ça qui est produit. Du coup, l'uniformisation du marché fait que c'est difficile de faire autre chose. Et je voulais revenir sur l'autotune et le vocodeur, aussi en particulier, mais l'autotune aussi, c'est qu'aussi, quand il y a dans la pop actuelle, à destination du public des pays arabes, c'est très, voilà, codifié à l'américaine. Et c'est pas forcément une appropriation d'un logiciel ou d'un truc qui viendrait d'ailleurs. Moi, je pense évidemment au rail quand je pense autotune vocodeur. Le rail, c'est la musique qui va faire un usage immense du vocodeur, mais sans copier, en fait. Sans copier ce qui se fait ailleurs.
Autotune ou vocodeur, d'ailleurs, dans le rail?
Vocodeur, d'abord.
Ah ouais.
Alors, autotune, c'est
on
un peu un...
beaucoup après l'autotune.
Oui, bien sûr. Là, alors là, la période 2010 à aujourd'hui, c'est l'autotune. Mais le premier gros tube... alors, premier tube où on entend du vocodeur... gros tube, alors on va dire gros tube, c'est Chabar Abdou 97. Madré Madré. Là, on sent qu'il y a du vocodeur. Et le premier tube entièrement vocodeur... Enfin, et là, je parle de tube parce qu'il y a peut-être des chanteurs de rail qui ont fait l'expérimentation en amont. Hein. C'est chez Bad Janet, Mette Jebdoulich, et c'est 2001-2002. Et là, c'est un méga tube, et de la chanson en entier, c'est du vocodeur. Mais c'est pas du tout sur les codes européens du vocodeur, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on dit pas vocodeur en Algérie. Bon, peut-être que maintenant, on dit autotune, mais pour le vocodeur, à l'époque, ils appelaient ça la voix robotique. Et je trouve que c'est très c'est très parlant. C'est très parlant, et à la fois, vraiment, c'est là où on voit la différence entre quel usage on fait d'une mode ou d'un instrument ou d'un logiciel qui apparaît ailleurs. C'est qu'est-ce que t'en fais, comment tu l'adaptes à une musique. Et le rail a su même en faire sa marque de fabrique, alors qu'en fait le rail à la base n'utilise pas de logiciel, quoi. La problématique actuelle pour moi de la pop musique à la Golf slash Amérique, c'est que c'est un modèle très, très redondant, avec assez peu dans un genre qu'on appelle la pop musique, mais qui est pas vraiment, qui est un peu un genre sans colonne vertébrale, j'ai envie de dire,
ouais.
Qui s'adapte au mode, voilà, donc on va prendre du reggaeton, machin, et il n'y a pas forcément de.
Une prise en compte du patrimoine...
Ni du patrimoine local, et puis même si vous voulez pas s'en préoccuper, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas d'inventivité dans la manière d'adopter, en fait, les nouvelles influences. Ou là où je trouve qu'avant, il y avait un... Ouais, quand il y avait plus de diversité dans l'industrie...
Ils adaptaient au bout du jour,
mais gardaient il y avait une...
Gardaient des spécificités, en fait.
Ouais, ou alors ils s'appropriaient le truc à leur sauce, quoi.
Est-ce que, à ta connaissance, c'est efficace dans le sens où... On sait qu'aujourd'hui, avec le web, le streaming et compagnie, des tubes peuvent provenir de pays qui traditionnellement n'étaient pas si importants dans l'industrie musicale, en tout cas en Occident, qui avaient leur propre industrie, voilà, en local, mais qui ne s'exportaient pas forcément de la même manière. Or aujourd'hui, ça a complètement explosé. On voit régulièrement les tubes. L'un des meilleurs exemples en Afrique, c'est le Ghana, par exemple, qui fournit énormément de tubes aujourd'hui à l'échelle mondiale, quoi. C'est le Ghana, c'est ça?
Non, c'est le Nigeria.
C'est le Nigeria. Tu as raison.
Je me disais le Ghana.
Oui, je pensais à Burna Boy, etc. Oui, non, c'est le Nigeria. Est-ce qu'il y a un équivalent est-ce que cette stratégie de s'intégrer complètement dans la globalisation, d'adopter les sonorités modernes, etc., permet aussi de s'exporter au-delà du monde arabe?
Pour moi, la problématique, c'est que c'est une industrie qui n'a pas vocation, qui ne se donne pas la vocation. Bon, déjà, par pays, il y a plein de problématiques pour produire, pour en tirer des revenus, de droits d'auteur. Du coup, comme l'argent actuellement s'utilise plutôt dans le Golfe, c'est plutôt à destination d'un public régional. Et donc, non, en fait, c'est pas là où l'industrie et même la protection des artistes au Nigeria est quand même beaucoup plus importante, avec aussi un investissement du web qui est même différent de ceux qu'on peut trouver dans les pays Afrique du Nord, Proche-Orient. De protection, ouais, vraiment, des droits d'auteur. Des droits d'auteur qui, pareil, sont pas du tout sur le même. Le Nigeria s'est donné les moyens d'être une grande industrie à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on n'a pas de pays arabe qui se donne les moyens d'être une grande industrie.
Et après, même pas l'Égypte, du coup, qui rayonnait à un moment donné.
L'Égypte a eu son heure de gloire musicale. Elle continue à connaître son heure de gloire en régional, on va dire, à être très écoutée. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'investissement particulier et plutôt des complications. Et aussi, l'imposition du modèle très, on va dire, à l'américaine de la chanson pop, c'est aussi l'Égypte qui l'adopte. En fait, il y a une problématique pour moi dans une industrie qui est structurée mais qui n'investit pas assez, on va dire, c'est de, en tout cas, qui n'investit pas dans la, elle n'investit pas dans la diversité et même parfois dans le fait de conserver des chanteurs qui chanteraient des registres classiques. Maintenant, c'est de plus en plus rare.
Ouais, donc il y a pas de conservation du patrimoine, de ce qui a fait la musique.
Après, si, il y a des lieux, il y a des institutions, il y a aussi un public qui écoute encore très régulièrement, enfin des choses qui se sont qui ont été produites il y a 70 ans. Je veux dire, c'est on l'entend encore à la radio. Et c'est aussi peut-être la différence notable que je vois, moi, entre cette région, ces régions et l'Europe, c'est qu'on écoute de manière très régulière, vraiment très régulière.
Des vieux trucs.
Des vieux trucs.
Ouais.
Mais du coup, c'est aussi pour moi lié au fait qu'il y a peut-être un truc de renouvellement qui se fait pas ou pas. Voilà, en tout cas.
Oui.
Je porte pas forcément de jugement sur le fait que les gens écoutent. Parce que les gens, ils écoutent aussi beaucoup autre chose, mais on revient toujours.
Au classique.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que, en fonction des pays, on a un rapport à la musique comme on la vit au quotidien et quel moment elles accompagnent dans la journée, différent en fonction des pays. Typiquement, moi j'assume par exemple de dire que fondamentalement, la France n'est pas un pays de musique. En tout cas, pas de musique populaire.
C'est-à-dire
que.
Tu vas avoir des problèmes.
Non, mais c'est-à-dire qu'à l'inverse de beaucoup de pays anglo-saxons, par exemple, la musique populaire n'est pas valorisée déjà par les institutions, par le pouvoir, etc. Et ce qui se ressent après dans sa présence quand tu te balades dans les bars, les gens qui jouent, etc., de la pratique musicale même de manière générale. Et tout comme on n'est pas un pays de sport, par exemple. Non, mais c'est vrai.
Ah non, Salman, c'est beaucoup trop de hot tech pour cette
émission. Non, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des qualités,
on
a des grands artistes, des grands sportifs, etc. Évidemment.
Un pays d'intello.
Et de gastronomie.
Non, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Là, c'est pour le dire un peu.
Brutalement, tu vas avoir des problèmes.
Ce que je veux dire par là, c'est que oui, je pense que la culture légitime en France, elle est très liée aux choses très intellectuelles, à la littérature, à la philosophie.
Non, Salman, je peux pas le laisser. Ça, c'était à l'époque.
Mais... Oui, mais ça reste en fait.
Les gens sont stupides maintenant. C'est fini.
Non, mais ça nourrit les trucs. Après, évidemment, qu'il y a plein de choses qui se font en parallèle, qu'on a des super productions musicales populaires, etc., des grands sportifs et tout. Mais dire juste que. Ce rapport très ancien, et notamment à travers aussi l'argent et les pouvoirs publics, et la considération et la place que ça a, tu vois, dans le regard globalement au sein de la société, eh bien, ça joue et ça laisse sa trace petit à petit. Et typiquement, on est aussi en France, on n'a pas trop ce rapport à la musique qui accompagne du rite. Qu'il soit religieux ou pas seulement religieux, le rite de passage, de l'anniversaire, de machin. On va avoir deux chansons pour souhaiter un bon anniversaire, tu vois.
La danse des canards, les démons de minuit, qui voilà. Ça, qui ça.
Mais ça, tu vois, ces exemples.
C'est quoi, qui ça, qui ça?
C'est ce qu'ils font à chaque fois. Quand on chante les démons de minuit, tout le monde dit qui ça? Les démons de minuit. Non, vous l'avez pas?
Non, okay. C'est
mais je vois le morceau. Je vois pas qui ça, mais je vois le morceau.
Ah, il y a qui ça, hein.
Mais non, mais tout ça, c'est pas pour être dur ou pour hiérarchiser ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire qu'il y a quand même des rapports différents à comment on vit la musique.
Bah, déjà, il n'y a pas de transe que toi t'évoquais quand on écoute un morceau qui dure une heure et demie. J'avoue que.
C'est un truc qu'on pourra retrouver dans les musiques électroniques, par exemple en France, etc., mais qui est pas inscrit vraiment dans.
Qui est pas largement partagé.
Dans l'identité et la culture française.
Ouais. Et donc, alors, on pourra pas faire le parallèle avec le monde arabe parce que c'est beaucoup trop vaste, il y a trop de spécificités, etc. Mais mon idée par rapport aux musiques anciennes, etc., pour revenir au sujet tout à l'heure, c'est que peut-être que dans beaucoup de pays reste encore l'idée que. Dans les célébrations du quotidien, dans le rythme du quotidien, dans la façon dont on vit, c'est plus accompagné musicalement, et que donc ça rattache aussi à une histoire musicale et qu'on y revient plus volontiers. C'est une...
Alors moi, je suis assez d'accord. Non, je suis d'accord, en fait. Moi, je pense que c'est aussi des pays qui, effectivement, ont des moments musicaux. On pense au mariage, et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose quand je t'entendais parler. Par exemple, alors effectivement, on est dans une uniformisation de ce qui est peut s'écouter à la radio ou à la télé, mais ce qui est impressionnant, c'est souvent qu'à l'échelle d'un pays et même local, il y a une star dans la ville qui est le chanteur de la ville, qui a vraiment, qui fait son répertoire souvent lié à la vie locale, en fait, à la musique qui s'écoutait le plus localement. Et tu vas, moi je pense à la Tunisie, tu vois tes grands chanteurs dans chaque ville. Donc il y a un rapport aussi très proche parce qu'effectivement les chanteurs peuvent accompagner des moments très importants de la vie. Je sais pas, moi, les chansons qu'on chante aux circoncisions des garçons, qu'on va pas chanter à d'autres moments, on va chanter des choses au mariage, on va chanter des choses, puis on va aussi chanter des choses quand on est en rupture amoureuse. Typiquement, Moukelfoum, c'est quelqu'un qu'on met quand on n'est pas.
Quand on n'est pas bien.
On peut la mettre quand on n'est pas bien, mais il y a des chansons quand même, des chansons de rupture où tu te dis, voilà.
Ouais. Surtout pendant une heure et demie.
T'es un peu, mais en même temps, c'est un moment que tu passes avec elle. Ou voilà, je sais pas, Cheb Hasni en Algérie, le qui était le chanteur de rail sentimental, qui était le chanteur, qu'on écoute quand on est amoureux. Donc il y a quand même un truc, effectivement, qui a de l'ordre du rapport à la musique.
C'est intime, en fait.
Ouais, c'est très intime. Ouais. Et du coup, c'est pour moi aussi très quotidien. On entend, moi, je trouve que j'ai pas mal visité, bougé dans ces pays. Je trouve qu'on entend quand même beaucoup de musique. Je sais, moi, j'en entends plus qu'en France, dans l'espace public. Ouais.
Mais dans beaucoup de pays, on entend plus de musique dans l'espace public qu'en France.
Et dans l'espace, par exemple, du café. L'espace du café, ou notamment même les espaces en non-mixité masculine. Mmh. Généralement, ça manque jamais. Mon colophon, elle commence à passer à partir d'une certaine heure et sont mélancoliques ou pas. Mais en tout cas, elle accompagne le moment d'être dans le café. Ouais. Et pareil, ça peut être elle comme d'autres. Hein, mais en tout cas, et c'est pas une musique de fond. En fait, c'est ça aussi peut-être la différence. C'est que ça peut être aussi des fois des assemblées d'hommes qui ne font que écouter, qui ne se parlent pas entre eux, mais qui écoutent ce qui passe. Ou qui font quelque chose, une activité qui va être de l'ordre. Moi, j'ai souvent vu ça. Silence, plutôt silencieuse, jouer aux cartes. Enfin, plutôt silencieuse. Ça peut ne pas être silencieux, mais c'est pas une activité qui nécessite la concentration. Et bon, c'est pas. On va pas non plus uniformiser, mais je pense qu'ils ont un rapport très intime à la musique et à l'oralité. C'est aussi. Alors, c'est aussi des pays de littérature. Hein. C'est juste qu'on n'y a pas accès parce qu'il n'y a pas de traduction vers le français de la plupart des œuvres. Mais c'est un pays qui a beaucoup emprunté à son patrimoine. Enfin, c'est des pays, pardon, qui ont beaucoup emprunté au patrimoine poétique, en fait, dans les musiques. Donc, en fait, la poésie, on ne la laisse pas sur un papier, dans un coin. On la met en musique.
Ouais.
Et du coup, bah, elle se partage plus largement. Et ça fait que t'as des personnes qui n'ont jamais été à l'école qui sont capables de réciter une poésie parce que Umkelfum ou X a chanté la chanson, le poème.
Alors, il y a un genre, par contre, qui, lui, en l'occurrence, se rattache moins aux traditions et qui est fort dans le monde arabe, c'est le rap, quand même.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Mais là aussi, il y a un vrai truc qui se passe. Alors, encore une fois, je ne suis pas un expert, mais j'en écoute régulièrement. Et dans quasiment tous les pays, il y a une production rap importante dans le monde arabe.
Ben oui, ben moi je pense que le rap a été peut-être le phénomène musical le plus important du XXe siècle. Hein. Parce qu'en fait, je pense que c'est quand même le genre qu'on retrouve
du XXe siècle.
Ouais. Bah, c'est né dans le XXe siècle, le rap.
Ouais, mais le plus fort du XXe siècle, il y a d'autres trucs puissants quand même aussi au XXe siècle.
Parce qu'il est rocker.
Mais tu vois, prenons le rap. En tout cas, moi, dans ma perspective, après, je suis pas objective, parce que j'adore le rap.
Ouais, musique, il y a eu plein de trucs quand même.
Ouais,
dans
mais
siècle.
C'est quand même le style musical que tu retrouves dans tous les pays, enfin, quasiment.
Ouais.
Que tu peux retrouver populaire ou non, mais en tout cas, avec un écho dans la jeunesse très important. Et par exemple, si je prends le rock, voilà, ça n'a jamais eu un écho populaire qui va au-delà de quelques tubes ou que d'un public qui n'est pas forcément négligeable. Hein. Je ne dis pas que c'est trois pélos dans une ville qui écoute du rock, mais je dis, disons, qu'il ne va pas y avoir un auditoire très important. Après, c'est vrai que le rap intervient aussi à un moment où la musique connaît des transitions en termes de diffusion.
Et le rap, des productions aussi.
Des productions, et puis dans ces pays-là, le rap.
Le moyen de production, c'est incomparable avec d'autres styles, parfois.
Bien sûr.
Ouais. Et puis même dans la manière de diffuser, je pense que c'est hyper important. C'est un style, en tout cas dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient, qui se diffuse aussi à un moment où, bon, il y a eu des diffusions avant Internet, mais Internet va aussi complètement déferler, et le rap avec. Après, bien sûr, t'avais des pays qui ont une histoire plus longue. Je pense à l'Algérie, qui est le premier pays de la région à avoir ses propres rappeurs. Et tout de suite, ça a été quand même très populaire dans la jeunesse. Oui, il y a une production spécifique d'ailleurs à chaque pays. Parfois, pareil, ça peut l'artiste ou les artistes peuvent avoir un écho plus largement. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que le rap est quand même encore très national.
Ouais. Mais en termes de sonorité, parce que, encore une fois, le rap du monde arabe, je passe à côté de quelque chose, ce qui est dommage, parce que je bouffe du hip-hop depuis 35 ans, mais ils sont... parce que c'est quand même une culture qui utilise ce qui a existé, donc on sample beaucoup, on fait des références à la culture du pays dans lequel on est, donc j'imagine que le rap...
Sont passés à la drill, c'est fini.
Bah, c'est ça, la question que je me pose, c'est le rap algérien, est-ce qu'il s'appuie sur, justement, la musique arabe, les sonorités, ou ils font de la trap avec des 808 et...
Moi, je trouve que c'est non. D'ailleurs, quand le rap se diffuse, en Algérie ou ailleurs, il ne se repose pas nécessairement sur son propre patrimoine, en fait, ils font du hip-hop, quoi.
Ouais, du coup, tu t'appuies normalement... Enfin, initialement, tu vois, c'est quand le rap est né à New York... Les mecs, ils avaient zéro moyen et absolument aucune formation musicale. Ils se sont mis à sampler des trucs qu'ils avaient sous les bras. Donc, en fait, on est aux États-Unis, ils samplent de la soul, du jazz. Mais on aurait été en France. Il y a des Français qui ont essayé de sampler du Piaf ou des choses comme ça, tu vois, avec plus ou moins de succès.
Mais ils vont plus volontiers quand même sampler les Américains au final.
Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est que les Français, en fait, la culture du sample.
Les autres font la même.
D'accord. Parce que moi, je me disais, comme c'est occidental, il y a des ponts.
Après, évidemment, t'as quand même des chansons qui reposent, enfin voilà, qui samplent le patrimoine local ou national, ou voilà, ça dépend. Mais c'est vrai que l'influence c'est les États-Unis. Enfin, ouais. On est quand même, et la France pour certains pays, notamment les pays, mais pas que les pays du Maghreb, parce que je prends Erras, qui est un rappeur libanais qui est important en fait dans la scène musicale libanaise. Mm-hmm. C'est un fan de rap français en fait.
Ouais.
Donc ça influence et c'est ça qui va influencer. Le rap algérien va être aussi très tourné vers les influences américaines, comme tout le monde finalement. Mais aussi, moi je trouve que le rap d'Alger a un petit côté rap marseillais.
Ouais. Et vice versa. Alors c'est plutôt rap marseillais
mais du coup, c'est en tout cas le rap algérien du début, au moment où le rap émerge en Algérie au début des années 90. Ouais. Je trouve qu'il a une cousinade avec le rap de Marseille, mais parce qu'en fait les gens écoutaient le rap qui était produit. En fait, c'est des kiffeurs de rap avant de devenir des rappeurs. Ouais. Je pense que c'est ça qui se produit. Après, je suis pas trop experte non plus. C'est pas forcément moi. Je suis très rap français. Ouais. Voilà. Alors moi, le rap d'autres pays, c'est bien de temps en temps, mais c'est pas. Je suis peut-être le seul truc sur lequel je suis national, quoi.
Non, mais en fait, c'est marrant parce que je me disais justement, en France, on a des artistes français qui disaient la France, c'est les States avec 10 ans de retard. Gros philosophe, SO à lui. Mais du coup, en fait, la France a toujours regardé le grand frère américain en mode, notice me, nous aussi on fait de la bonne musique, etc. Et je me dis, dans les pays du Maghreb, il y a peut-être une plus grande défiance vis-à-vis de l'américain en termes d'influence culturelle, alors que nous, on a grandi dans un système Hollywood, etc., où on voulait être des Américains, en fait.
Je crois que la planète entière est touchée par ce fait.
Je sais pas, je pensais qu'il y avait peut-être des zones où on voyait vraiment l'Amérique comme.
Après, ça peut être effectivement l'Amérique.
L'impérialisme, genre de trucs.
Oui, bien sûr, il y a cette image, mais la musique a quand même cette force-là.
Le soft power culturel, les Américains, ils ont réussi leur coup. C'est que partout, on est fasciné quand même. Ça peut être un rapport amoureux. Enfin, je parle pas forcément même que du monde arabe, hein. Mais de manière générale, il peut y avoir un rapport amoureux, mais c'est là.
Cette influence, elle est quand même, ils kiffent le rap US, ils se réfèrent aussi à l'histoire, plus glorieuse des États-Unis quand ils se réfèrent au hip-hop, dans le sens où c'est pas forcément toujours perçu comme l'Amérique impérialiste. Oui. Et puis c'est les Afro-Américains aussi. Ouais. Et je pense que ça quand même, bon là je m'aventure un peu sur des choses que j'ai pas recherchées, de preuves d'un rappeur qui a dit ça, mais le rap, en tout cas dans la naissance du rap français, on sait très bien qu'il y a quand même eu ce truc de la musique elle déchire, et puis il y a aussi ce truc de voir des personnes qui nous ressemblent ou qui se rapprochent de nous artistes quoi. Ouais. Donc du coup je pense qu'il y a quand même eu de ça, et que c'est aussi parfois, je pense pour le rap notamment dans ces pays-là, la dimension du fait que le rap porte. Bon, on sait qu'en réalité, c'est pas nécessairement le cas, mais il y a cette caricature parfois, positive ou non, du rap politique. Mais c'est vrai que ça a été un genre musical où on a exprimé des choses politiques. Et les rappeurs qui l'ont fait sont plutôt américains, sont plutôt très bien perçus comme porteurs d'un message politique intéressant.
Je me disais que comme tu as parce qu'on a une sphère d'influence qui est donc plutôt, nous, atlantique. Je sais que au Moyen-Orient, il y a la Russie qui essaye aussi de se placer, notamment avec la Syrie, on l'a vu, etc., sur un point géopolitique. Et je me dis, dans quelle mesure, en fait, ce gros bloc qui est l'ex-Union soviétique essaye pas aussi de faire la même chose que les Américains, c'est-à-dire de
le combat de la culture,
d'orienter culturellement les pays dans lesquels ils ont une influence, tu vois. Et je me dis, peut-être que effectivement, dans certains pays, on regardait pas la même.
C'est possible, mais moi j'ai l'impression que le combat culturel américain, il est gagné.
Ouais, ça y est, c'est foutu.
J'ai l'impression.
En tout cas, autant pour le cinéma, on a beaucoup de cinéastes qui ont pu être formés en URSS, dans les écoles de cinéma, ou influencés par le cinéma soviétique. Je vous parlais tout à l'heure de Nasser et du cinéma réel-socialisme très influencé par le cinéma soviétique. On peut le retrouver aussi, et pour des raisons aussi très historiques, en fait, ces personnes issues de ces pays du tiers-monde ont accès aux écoles de cinéma, plus facilement aux écoles de cinéma, on va dire, enfin plus facilement, je sais pas, en tout cas ils ont accès aux écoles russes, enfin soviétiques plutôt, parce qu'il n'y a pas que la Russie ou de l'ex-Yougoslavie. Donc il y a quand même d'autres influences dans le cinéma, mais dans la musique, il n'y a jamais eu, en tout cas, de volonté manifeste du bloc de l'Est. De bloc de l'Est, je parle comme si on était dans les années 80, mais du bloc soviétique, d'influencer particulièrement, de diffuser particulièrement sa musique dans ces pays-là. Hein. Je veux dire aussi, on n'est pas sûr forcément d'ailleurs, peut-être c'était pas la même stratégie que les Américains.
Est-ce qu'il y avait une stratégie même, je me pose la question.
Mais en tout cas, c'est pas sur ça fait, qu'on retrouve, c'est pas dans la musique qu'on retrouve une influence.
Les Russes eux-mêmes, à l'époque de l'URSS, ils voulaient que écouter de la musique américaine.
Ouais, et puis voilà, par ailleurs, il y a la puissance, la force de frappe de l'industrie américaine et le soft power américain qui fait que de toute façon, le monde entier a été abreuvé des musiques anglo-saxonnes et a pu ou non réadapter. Mais je pense quand même que dans le hip-hop, il y a un truc lié à la jeunesse. L'expression de la jeunesse est liée à, peut-être parfois, pour certains rappeurs qui ont pu avoir leur importance ou qui sont encore importants, la dimension politique du hip-hop. Et je dis pas que c'est nécessairement toujours le cas, parce qu'il y en a qui chantent pas du tout des textes politiques et qui sont en tape, mais il y a quand même eu, je pense, cette espèce de posture assez qu'on peut retrouver un peu partout, de la posture du rappeur conscient. Etc. Après, bon, moi, c'est pas non plus. J'écoute plus de temps en temps du rap qu'autre chose. Mais par exemple, on sait que dans le rap français, typiquement, il y a eu une forte influence américaine d'imitation des Américains. Et puis après, il y a eu un son plus, on va dire, made in France. Mm-hmm. Et même dans l'esthétique. Et ça me permet de faire le pont avec, avec la musique arabe. Mais quelqu'un comme Rimka, par exemple.
Ah! Je suis content qu'on cite les artistes du 94.
113.
Ça me fait plaisir.
Bah, la mafia. Mafia Kinfri, ouais. Et le 113 et Rimka. Enfin, tu vois, typiquement, pour moi, en apportant l'esthétique du 94 de Vitry, déjà, ils rapportent dans leur. Même dans le style vestimentaire, quand on voit leur premier son, de très français, dans la façon d'être.
Et le revendiquer.
Et le revendiquer de faire.
Ils le disaient souvent qu'ils n'étaient pas de Brooklyn et que.
Et qu'ils revendiquaient ça. Et puis, Rimka, c'est le premier à aussi, dans le rap, pour moi, à faire un usage conscient, on va dire, des samples de musique arabe.
Ouais, et
des
samples de musique. Tonton du bled.
Exactement.
Bien sûr.
Et
DJ Mehdi, d'ailleurs, a souvent eu recours à la musique arabe.
Et Mehdi, enfin du coup, pour revenir sur la fameuse boucle du 113 qui vient de Ahmed Wahbi, que je citais au tout début de l'émission comme un grand chanteur de rang, c'est un sample de Hargetni Dama que Rimka en fait embarque les vinyles de son père chez Mehdi, et il cherchait la boucle de Tonton Dibled et il tombe sur ce son et il prend la boucle.
Alors est-ce qu'ils ont clearé le sample, puisqu'il y a des problèmes de propriété intellectuelle là-bas, est-ce qu'ils ont
clearé? En tout cas, Tonton Karim est coproducteur sur le sur le son. C'est comme ça d'ailleurs que en fait il a été découvert par Bachir, avec qui j'ai pas mal bossé, qui est DJ rap et parfois journaliste pour l'ABCDR du son, etc. Enfin
qui est très bon site.
qui est d'ailleurs animateur d'une émission sur Grunt rap, qui découvre en fait, qui capte, parce que c'est un collectionneur de musique arabe. Il a aussi Toukadim, qui est une émission animée sur une radio associative de Rouen, et c'est un grand digueur de musique du Maghreb. Et il se doutait qu'il y avait un sample, parce que de toute façon on entend quand qu'il y a un sample de musique du Maghreb sur cette chanson, mais en fait il écoute des vinyles et tombe sur et il se dit en fait c'est cette chanson, le sample, la boucle. Et il fait confirmer à Rimka, et c'est effectivement comme ça qu'on a su de quel son venait la boucle, la fameuse boucle qui va constituer Tonton du Bled. Et puis même après ça, hein, Rimka, il va être très... on sent que c'est un kiffeur de musique algérienne, et même plus largement, hein, mais algérienne en particulier. Il va faire des duos avec Sheba Zawania, grande chanteuse de raï, Reda Taliani, évidemment, Partir Loin. Et toujours, en fait, c'est des gens hyper à la mode quand il le fait. Je veux dire, il est vraiment dans l'air du temps aussi de ce qu'il... il a fait d'ailleurs un duo avec le premier groupe de rap algérien, MBS, Micro Brise le Silence, fin des années 90 ou début 2000. Donc c'est quelqu'un qui est très regardant aussi de ce qui se passe ailleurs, qui est un fin connaisseur, et il a apporté ça aussi dans la façon de faire du rap. Certes, les Américains avaient aussi samplé de la musique arabe. Enfin, on peut prendre évidemment Timbaland qui a samplé des grands chanteurs, Abd al-Halim ou d'autres, ou qui a samplé même, quand c'est pas du rap, c'est pour du R&B, pour Alia, c'est Warda.
Ce que je vous propose, c'est peut-être pour terminer ce podcast tranquillement, c'est peut-être parler un peu justement de ce rapport du monde, si on peut dire occidental entre guillemets, aux musiques arabes et comment ça a été repris. Alors là, on a parlé du cas du rap français avec Rimka. Effectivement, est-ce que c'est, par exemple, on trouve beaucoup de samples de musique arabe à travers le monde, par exemple, ou de réutilisation de...
Bah, on en trouve pas mal. Déjà, on en trouve régionalement. Je pense que c'est la première source de samples, etc. C'est d'abord les voisins d'à côté, Turquie, Iran, dont on parlait au début. Inversement, la musique actuelle dans ces pays peut être largement sur du sample turc, etc. Donc il y a vraiment d'abord une diffusion régionale. Après, évidemment, il y a aussi des adaptations, voire carrément des reprises. On n'est même pas des fois dans le sample. Moi, je sais que Didi de Khaled, fameux tube des années 90, a été un super méga tube en Inde dans sa version indienne.
Ah ouais,
ah, dit, ah oui, c'est absolument phénoménal. Ah, et que ça a eu des versions dans plein de langues. Donc, des fois, on n'est même pas dans le sample, on est dans la reprise.
Ouais, c'est de la reprise pure.
Après, le rap a été, américain a été aussi influencé par les sons dits orientalisants.
Donc là,
on met pêle-mêle tout le monde, hein. Peu importe.
Oui, l'Indien.
Et en fait, pour eux, c'était un peu la même chose, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, il y avait une vibe de te ramener ethnique. Un son oriental, quoi, ethnique.
Ouais. Et du monde.
Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'il va y avoir des samples sur des très, très gros tubes. Comment s'appelle ce son-là de Jay-Z? C'est honteux que j'oublie.
Big Pimpin.
C'est Rosara de Abd al-Halim dont je parlais.
C'est vrai?
Oui.
Ah, c'est ça le sample?
Ouais, il y a eu un procès. Il y a eu un procès d'ailleurs, à n'en plus finir, pour cette histoire. Parce qu'en fait, ils sont allés le piocher et pour eux, c'était qui? Sauf qu'en fait, ils samplent méga star, quoi. Donc forcément, en fait, le son arrive en Égypte.
Tout le monde repère direct.
Bah oui,
et les héritiers se disent, c'est quoi ce bordel? C'est à nous. Et
il est incroyable ce morceau. C'est vrai, j'avais même pas. Enfin, tu vois, pourtant, le sample, on n'entend que ça.
Ouais.
Je me suis jamais posé la question de où ils l'ont trouvé. Quoi.
Et bah, c'est Khosara de Abd al-Halim Hafez, un chanteur. Et le compositeur est un homme qui a une grande importance dans justement cette modernisation, si on veut, de la musique égyptienne. C'est Balir Hamdi. Et c'est d'ailleurs lui qui va souvent être samplé. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont eu un prisme à un moment, ils se sont dit, sans le savoir, on va prendre tous ces sons à lui, parce que c'est un ouf, il est trop fort.
Ouais.
Et donc, les samples de Warda, de Alia, c'est Balir Hamdi qui est compositeur. On est dans un moment. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui va orienter finalement les rappeurs français à faire la même chose.
Ouais.
Lionel D avec...
Toi, mon beurre, le beurre.
Pour toi,
mon frère, je me rappelle plus exactement.
Pour toi, le beurre, je crois.
Ouais.
C'est Fayrouz.
Ouais, exact. On l'entend bien. Mais
bah ouais, d'ailleurs, c'est pas très. Enfin, c'est pas un simple fait pour cacher que c'est Fayrouz. Et on va retrouver ça après sur.
C'est vrai que très tôt, là, on parle de Lionel D, c'est vraiment. C'est les
débuts
de
rap en France. Ouais, 80.
Ouais, et donc il sample. Artin et Ney, donne-moi la flûte. C'est celle-là. Qui sample. Même c'est quasiment pas un sample pour moi, pareil. Enfin, le sample, il est pas travaillé. Il est pas travaillé de manière à se le rapprocher pleinement. Ouais. Quelqu'un d'autre qui va faire aussi un choix esthétique où on reconnaît très largement que c'est Fayrouz, c'est Haroun de la Scred au front. Et ça, c'est assez. Alors moi, j'adore la Scred. Parce que je viens du 18e arrondissement, du coup, voilà. c'est pour ça. Donc, ça a été important dans ma vie, ça l'est toujours. Et quand on fait, en fait, avec Bachir, dont je vous parlais, on a fait un podcast qui s'appelait Rabza. Une histoire de samples arabes dans le rap. Et on détaille plein de samples.
Ah, c'est cool, ça.
Et dans ce podcast-là, donc on est un moment sur un tunnel Fayrouz parce qu'en fait elle est tellement samplée qu'on se dit on va en sélectionner quelques-uns et les plus connus, et donc il y a Haroun au front on reconnaît largement que c'est Fairouz pour les connaisseurs. C'est une chanson qui s'appelle Zahret El Madain, qui en fait est sur un rythme très opérette militaire. Enfin, en tout cas, qui a des parties très opérette militaire. Je l'ai pas dit, mais ça a été un genre, un moment en vogue. On comprend aussi pourquoi régime militaire, oui, beaucoup forcément. De guerres. Mais en tout cas, il y avait un truc très martial, notamment dans les chansons politiques. Et c'est une chanson politique qui a été écrite après la guerre de 67 pour la ville de Jérusalem et pour les Palestiniens de Jérusalem. Du coup, il y a une partie, c'est pas que ça la chanson, mais il y a une partie, parce que c'est un son qui est court, mais un peu long. Du coup, on est sur du 10 minutes, je pense, à peu près. Et il y a cette partie un peu militaire. Il utilise celle-ci au front. Ça colle parfaitement. On reconnaît que c'est Fairouz. D'autres personnes qui l'utilisent, là, on reconnaît pas, à part ceux qui ont l'oreille très fine, ce qui est notre cas, c'est Lunatic. Pas le temps pour les regrets.
Ah oui, d'accord.
C'est Fairouz et c'est le même son qu'Haroun.
Ah ouais, rien à voir en fait.
Est-ce que parce que le sample, c'est un peu. Ça n'engage pas beaucoup. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que de sampler de la musique arabe, ça n'engage pas beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas un hommage clair, direct, ce n'est pas tout de suite perceptible, etc. Et culturellement, ce n'est pas un engagement forcément comme un hommage à la culture arabe, par exemple. Ça peut l'être, hein, mais ce n'est pas une obligation. Oui,
ouais. En fait, je voudrais juste ajouter un truc par rapport à Haroun, parce que moi, je me suis dit dans le podcast, en blablatant, Haroun est tunisien, comme moi. Donc, je me suis dit, bon, il y a moyen qu'on ait... que nos parents écoutaient des choses similaires. Et donc cette chanson, elle est hyper importante, bon, pas que pour les Tunisiens, mais en Tunisie, elle est quand même particulièrement importante et connue. Et je me suis dit, en fait, il ne l'a pas pris par hasard. Pour le coup, lui, il ne l'a pas pris par hasard, j'en suis sûre. Et je le dis dans le podcast, je suis sûre, pour moi, Haroun, il l'a pris parce que ses parents lui ont fait écouter et qu'elle a un sens pour lui. Et j'ai reçu un message de la femme d'Haroun quelques semaines après qui me dit, en fait, il a adoré, il te vous félicite. Et effectivement, tu avais raison, tu es la seule à avoir... formuler oralement ça. Après, je pense que c'est pas nécessairement toujours le cas, déjà, parce que les rappeurs qui ont samplé sont pas nécessairement d'origine arabe. Donc, tout simplement, voilà.
Dans le cas de Lunatic.
Voilà.
Après, on peut rendre hommage à cette musique sans être d'origine arabe.
Après, il y a des fois des hommages manifestes. On parlait de Rimka. Pour moi, c'était une volonté, en tout cas, d'avoir un son qui sonnait algérien. Bon, ça tombe sur Ahmed Wahabi, ça aurait pu tomber sur un autre chanteur, mais il y avait une volonté, je pense, quand même. En tout cas, je pense pas que c'est par hasard qu'il ramène les vinyles de son père. S'il cherchait pas quand même une ambiance. Ouais. Après, bien sûr, pour moi, comme tu dis, le sample, il n'engage pas nécessairement une volonté d'hommage. C'est pas le but du sample.
Ou de souvenir.
En fait, je voulais en arriver à là, pour poursuivre le truc, c'est que à une époque, on importait, comme ça a été le cas avec, on a parlé du Raï en France, des chanteurs, des interprètes, des compositeurs du monde arabe. Encore précédemment, il était vu comme assez classe d'aller à un concert de Oum Kalsoum à Paris, par exemple. Il y avait un... Non, tu penses pas?
Je te raconterai l'histoire après. Je vous raconterai
ça. En tout cas, j'en estime, tu vois, de... vu comme de la musique quand même assez... assez qualitative et où, globalement, on a envie d'aller assister à son concert. C'est un événement, en tout cas, qu'elle vienne à Paris. Alors, peut-être que ça touche avant tous les immigrés, j'en sais rien. Mais tout ça pour dire que... On ne peut pas utiliser uniquement le sample pour dire il y a encore ce hommage qui est présent. Est-ce que ce rapport à la musique arabe, il a évolué avec le temps? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que, honnêtement, ce qu'il y a le truc derrière, c'est aussi, il me semble que le monde occidental, il y a un rapport un peu plus conflictuel avec le monde arabe aujourd'hui, 11 septembre et compagnie. Est-ce qu'il y a eu un changement, y compris d'un point de vue musical, dans l'hommage, dans le rapport qu'il peut y avoir entre la musique arabe et le monde occidental?
Pour reprendre le début de ton propos, on pense aujourd'hui que l'accueil d'Oum Kalsoum à Paris a été... accueilli avec les honneurs, etc. Alors, il y a eu des honneurs, il y a eu un télégramme de Gaulle, mais après, il savait très bien l'importance qu'elle avait sur place. Donc, on était sur un truc assez élitiste des personnes, des sphères, notamment politiques, qui étaient au courant de l'importance. Il y a eu des reportages élogieux, comme d'autres qui ne l'étaient pas. Moi, je prends le Figaro de l'époque, il me semble, c'était le Figaro, qui dit qu'en fait... Des milliers de Nord-Africains ont envahi. On aurait dit qu'ils venaient écouter une chanteuse chanter deux chansons pendant deux heures. On aurait dit qu'ils allaient à la Mecque. Enfin, mais avec beaucoup de mépris, là, je vous la refais, mais vraiment, il y avait des passages hyper racistes, en fait. Et à une condescendance, même vis-à-vis de la chanteuse, où en fait, on se dit que finalement, c'était pas si uniforme que ça. Après, t'as d'autres articles plus élogieux, et dans la salle, c'était effectivement composé en majorité de travailleurs immigrés, mais pas que. En termes de milieu de la musique, Il y avait déjà une reconnaissance, mais d'ailleurs qui passait par, pour moi, des personnes qui sont de toute façon des personnes qui sont de là et de là, d'ici et de là-bas, quoi. Charles Aznavour, typiquement, était là, qui est arménien, et qui, évidemment, la connaissait. Il y avait une présence quand même du milieu, d'un certain milieu de la musique, quoi. Mais c'est pas si, en fait, c'est pas si, enfin, c'est un peu monté avec les années, parce que je pense que les Français, enfin, et encore quand je dis Français, je suis très gentil, quoi, hein, parce qu'on est quand même sur un pays qui est largement un culte des musiques qui viennent de 80% de la planète. Je suis très gentil quand je dis ça. Mais en tout cas, du milieu de la musique, de plus de reconnaissance ou plus de connaissance vis-à-vis des musiques arabes. Mais dans les années là où quand elle est venue en 68 ou 67, 68, c'était pas le cas. Hein. On n'était pas sur un public qui avait un peu connaissance. La plupart des gens, ils s'en foutaient. Il n'y avait pas d'événement. C'était pas un événement en soi. Et progressivement, il y avait plus d'ouverture. Mais ça reste très exotisant et très peu finalement diffusable ou diffusé. On reste sur des diffusions pour des radios communautaires. Il y a une espèce de vibes depuis quelques années autour de l'électro-arabe qui fait qu'il y a un public qui va quand même écouter des gens, qui mixent de l'électro en empruntant à ces musiques. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de volonté du milieu de la musique de les diffuser plus que ça. Ça reste pour moi encore... Alors là, c'est la partie officielle, on va dire, de l'industrie musicale, les médias musicaux, les diffuseurs qui restreignent en fait les musiques dites du monde à la dernière roue du carrosse de la musique en France. Après, la réalité, c'est que les musiques arabes ont toujours eu un public, ici depuis très longtemps, qui sont les immigrés, qui sont les personnes issues d'immigration. Donc ça crée un public très important. Ça veut dire qu'Oum Kulthoum, ces places, elles se vendent tout de suite. Il n'y a pas de problématique. Ça veut dire que c'est aussi un public qui est en mesure immigré, qui a pu d'ailleurs être lui-même acteur de l'évolution des musiques dans leur pays. Je pense notamment pour les Algériens, Tunisiens, Marocains, où pendant longtemps, en tout cas pendant la période coloniale, la musique maghrébine se transformait, évoluait à Paris, et était enregistrée à Paris. Et qu'il y a eu des chanteurs propres à l'immigration. Donc il y a une musique propre, arabe, propre à la France. Qui a très peu de diffusion ou qui n'a pas nécessairement beaucoup d'écho. Parfois, il y a eu beaucoup d'écho, mais pas toujours. Qui n'a pas eu d'écho dans les pays d'origine des personnes. Mmh. C'est d'abord des stars de France. Pour un public d'immigrés, mais des stars de France. Parce que leur public, il est ici. Il y a eu aussi la mise en... Ben voilà, c'est vraiment la force aussi d'avoir une diaspora ou d'avoir des diasporas. C'est que c'est des gens qui sont en partage de leur musique. Donc en fait, ils vont influencer l'écoute de personnes qui ne sont pas issues de ces diasporas. On prenait Rimka, typiquement, il a un rôle dans la diffusion des sonorités, comme d'autres l'ont eu avant lui. Et il y a surtout n'importe quelle personne lambda qui va partager tel ou tel son. Ce qui fait que ça circule et que ça reste un pays, en fait, en réalité, la France, où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent de la musique arabe. Enfin, des musiques arabes, des musiques du Maghreb et du Proche-Orient. Parce que c'est un pays où il y a beaucoup de diasporas. Et ça, c'est pas une réalité qui est perceptible, on va dire, pour moi, dans les médias musicaux, dans la diffusion, ouais. Même dans les propositions d'artistes qu'on va pouvoir faire venir.
Est-ce qu'à ce moment-là, il faut voir, parce que quand on a commencé le podcast, avec Daz, on se disait, tu nous disais, je vois le rail, essentiellement.
Ouais.
Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la petite vague qu'il y a eu de rail français, entre guillemets, alors c'était des gens qui venaient d'Algérie, essentiellement, d'ailleurs, mais qui ont quand même été des stars en France. C'était en fait une espèce d'anomalie plus que de se dire qu'il y a eu des changements, des mouvements, etc. C'est juste qu'il y a eu un peu ce coup d'éclat, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs, et que globalement il n'y a jamais eu un intérêt en dehors des immigrés d'issue. Hein,
Alors oui, il y a eu une volonté d'internationaliser le rail, mais qui est une volonté qui vient de l'Algérie, de l'État algérien même, qui va financer largement l'album Coup de chez Traled. Avec des visées politiques assez claires, redorer l'image de l'Algérie à l'étranger, je pense, puisque c'est quand même un général qui va être derrière la main d'œuvre. Une volonté d'avoir une meilleure image, une diffusion aussi internationale, une volonté aussi de peut-être avoir une influence sur ce phénomène de la jeunesse qui va s'ancrer durablement. Mais il y a cette histoire qui fait que c'est un producteur français qui enregistre l'album, qui s'est enregistré chez Universal, avec sa fille Boutella, qui vient du jazz, qui donne une sonorité, on va dire, entre guillemets, audible à l'oreille, au code plutôt, de la musique européenne, et qui permet progressivement d'avoir un public. Après, le public rail, il existait déjà. Ça veut dire qu'en fait, les Algériens, ils ont toujours fait circuler leur musique. Il y avait des chanteurs de rail locaux, on va dire. Et il y avait aussi, évidemment, une circulation des vinyles, puis des cassettes, très largement dans des quartiers comme Barbès, la Guillotière à Lyon, à Marseille, Belzins. Je veux dire, on ne manquait pas d'endroits où on pouvait se fournir et où il y avait déjà un public acquis, qui assurait déjà un certain succès. Le fait que ça se signe chez Universal avec une volonté de toucher un public français, enfin français, franco-français, je sais pas comment dire, en tout cas d'un public qui n'est pas d'origine maghrébine, c'est une stratégie. Alors, pourquoi à cette époque, d'un coup, on est plus ouvert aux musiques dites du monde, mais en tout cas, il y a la catégorie, pour moi, la catégorie musique du monde, elle se constitue vraiment aussi dans ces années-là, en tout cas, elle se fige un peu. Il n'y a pas d'ailleurs que des musiques, des chanteurs... de Algériens qu'on ramène, hein, Amadou et Myriam, ils émergent aussi dans une période où
il y avait des choses avant, des
Johnny Clegg,
ouais, non, ou des Youssou N'Dour, des trucs
exactement
comme ça.
Et à un moment
un peu avant Alpha Blondy.
Ouais. Après, pareil, c'est des gens qui avaient déjà un public ici et qui déjà étaient connus ici et qui étaient là et qui pouvaient même d'ailleurs être enregistrés sur des labels gérés par des gens issus de leur communauté. Ici, le truc qui change, c'est que c'est un grand label qui mise sur ces musiques à un moment donné. Donc le rail connaît une espèce de montée en puissance où l'apogée sera les années 90, où d'un coup on a évidemment Cheb Khaled, Cheb Mami, mais aussi Cheb Sahraoui et Cheb Bafedela, où d'un coup un festival à Bobigny ne met que des chanteurs de rail. Il y a un phénomène effectivement de popularisation avec des sons qui parfois, pour certains, ne sont même pas considérés. Moi je parlais à un pote... Algérien d'Algérie qui me disait, mais Didi de Khaled, c'est pas du rail, quoi. C'est... Faut arrêter un peu. Et pourtant, il est très grand fan de Khaled, hein. Mais il dit.
Ce morceau-là, spécifiquement.
Ouais, enfin, pas... on disait, il y a des moments où, en fait, il ne fait plus du rail, quoi.
Ouais.
Et donc, il y a quand même. Le truc, c'est qu'en fait, ces chanteurs sont aussi. Et ces musiques, issues, donc, de gens non blancs, sont. Et en plus d'être non blancs, souvent non français, c'est-à-dire même pas. Nationaux du pays, quoi, sont tributaires du moment où on considère que la mode, elle doit passer et qu'on doit passer à autre chose. Aussi des enjeux politiques. Moi, je pense. Prenons même un exemple au-delà du rail. Rachid Taha sort son album Barbès solo en 91, l'époque de la première guerre du Golfe. Il est boycotté par les médias parce que c'est pas bon chic, bon genre d'avoir un arabe sur les plateaux à ce moment-là. Donc, traitement raciste,
ouais,
qu'il a toujours dénoncé, de la même manière qu'il a été après catégorisé chanteur de rail parce qu'il a fait partie d'un 2-3 Soleil, mais Rachida est un rocker, n'a jamais été un chanteur de rail, même s'il a pu être énormément influencé. Il fait d'ailleurs partie des personnes, je ne l'ai pas cité et c'est grave, mais des personnes qui vont en fait apporter ce patrimoine dans la musique rock, en l'occurrence, mais dans des musiques en France, quoi, dans la musique française, qui va d'ailleurs être le premier à chanter. En arabe.
Ah oui, pardon.
Et puis, même carte de séjour. Enfin, carte de séjour, c'est des chansons. Ils chantent en arabe, quoi. Pourtant, c'est un gars qui a grandi ici, mais il décide que c'est comme ça qu'il va s'exprimer. Et c'est une musique de France. C'est pas une musique. C'est une musique française. C'est pas. Et quand bien même elle est chantée en arabe. Et pourtant, il y a ce truc de. Parce qu'il a fait partie de l'aventure 1-2-3 Soleil, qui a regroupé deux personnes, effectivement, du rail, Khaled et Faudel, avec des parcours différents. Faudel étant né en France. Étant aussi d'une école du rail, on va dire, de l'Hexagone. Cheb Khaled, la plus grosse star du rail. Et Rachid Taha, qui est un rocker ouvert à toutes les influences de la musique algérienne et imprégné de ça. Il va se retrouver catégorisé chanteur de rail, il ne l'a jamais été. Quand on va en Grande-Bretagne, et pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'étais avec un pote britannique, mais qui considère que c'est un super rocker. Et voilà, enfin, Rachid Taha, il est connu comme étant un rocker. Hein.
Mais pas en France.
Pas en France.
Classique, hein.
Et après, il y a évidemment des événements politiques. Le 11 septembre met un arrêt net aux musiques. En fait, encore une fois, la perception du mauvais arabe reprend le dessus. Et du coup, ces musiques sont tributaires, mais des effets politiques et des modes. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la mode de l'électro. quand est-ce que ça va s'arrêter? À quel moment on va se dire, bon, on en a marre de sampler des musiques du Maghreb, du Proche-Orient, et on passe à autre chose? Déjà, ça, pour moi, ça a pas mal commencé avec la musique éthiopienne, vers 2007-2008, où là, d'un coup, tout le monde était à fond sur faire de l'électro avec la musique éthiopienne. Bon, on est passé à autre chose, on remonte au Proche-Orient, ok, voilà, on fait de la musique. Après, on est passé à au Maghreb. En fait, c'est aussi lié à des questions typiquement de droits d'auteur. En fait, c'est facile d'aller prendre les sons des autres et qui sont pas au courant sans payer les droits d'auteur. Donc, il y a aussi pour en tout cas pour le milieu du DJing,
parfois,
etc.
Le catalogue est pas très cher.
Ouais. Pas très cher ou même parfois c'est gratuit quand tu considères que tu n'as pas payé.
Pas déclaré,
parce qu'en fait, les gens ils sont pour toi inconnus au bataillon ou parfois vraiment réellement pas très connus. Donc, il y a vraiment eu ces grosses problématiques de droits d'auteur qui permettent aussi de sampler là où c'est quasiment impossible maintenant de sampler une chanson. Produite de soul, ouais, de c'est jazz, tout est protégé. Ouais. Donc il y a aussi pour moi une question de marché qui provoque parfois des modes. Là, je parlais de la mode de l'électro arabe, Proche-Orient, Maghreb, enfin voilà. Elle est pour moi très largement liée au fait que les DJ peuvent plus sampler comme ils veulent. Et que les seuls filous qui peuvent continuer à faire ça, c'est des gros rappeurs américains qui en fait s'en tapent parce qu'après ils vont payer les droits. Mais que pour la plupart des gens, c'est devenu compliqué. Enfin, la plupart des artistes, c'est devenu compliqué d'être dans la culture du sampling, quoi.
Ouais, bon, alors il faut trouver d'autres pays. Il y a Lupe Fiasco qui avait fait un carton absolu avec Kick Push, avec un sample indonésien.
Ouais.
Et en fait, voilà, il faut aller chercher.
Ouais, et après, tu vois, c'est un peu
du
ça.
Du Vietnam, du Cambodge.
Mais tu sais, peut-être qu'après, pour le monde de l'électron, on va passer à un truc. Bah voilà, peut-être qu'ils vont passer à l'Asie du Sud-Est parce que. Ça sera plus.
Ça sera moins grillé.
Ça sera moins grillé. Après, c'est pas les risques qu'ils encourent. Ils encourent pas grand-chose parce que, hélas, les gens sont très peu protégés et sont très peu en capacité d'attaquer des Européens qui vivent même pas dans leur pays. Mais je pense qu'aussi, en termes de sonorité, il y a aussi des fois des volontés dans les parcours de DJ d'aller vers ailleurs. Ouais. Et de fait, ça peut orienter des modes. D'un coup, on arrête de diffuser du rail, mais le rail, il n'est pas mort, en fait. Il a continué à être produit, largement écouté, très populaire, et redevient à la mode actuellement, par l'intermédiaire, d'ailleurs, de cette fenêtre électronique, hype, je ne sais pas comment dire...
Hipster, ouais.
Hipster, voilà, exactement.
Disons avec, les termes.
Voilà, disons les termes avec... le sens négatif qu'ils peuvent porter. Et du coup, le rail reconnaît... je dirais pas du tout, on n'est pas du tout au stade des années 90, mais il y a peut-être un regain d'intérêt. Ça m'interroge sur l'usage que ces personnes en font, parce qu'en fait, ils ont un intérêt seulement tourné vers le passé, sans jamais écouter ce que les gens du rail font actuellement, et qui est à mille lieues de ce qu'eux, ils kiffent, quoi, parce que c'est du synthé à fond, de l'autotune à fond, et à mon avis, ils trouvaient ça dégueulasse, quoi. Mais il n'y a pas d'intérêt en fait à découvrir la musique au-delà de ce qui peut être utile ou écoutable. Ouais. Ah ouais. Donc ce qui limite aussi, je pense, la manière dont les gens peuvent découvrir le rail ou d'autres musiques, si on part du principe qu'on va aller que vers ce qui est proche ou non, un peu proche des codes de la musique européenne.
C'est une capsule temporelle, quoi.
Les amis, on a parlé longuement. En plus, on se faisait attaquer régulièrement par une mouche.
Ouais,
il nous tourne autour depuis tout à l'heure.
C'est vrai,
terrible.
C'est vrai.
C'était passionnant.
Merci
beaucoup, Azer. Évidemment, on a fait qu'effleurer le sujet, j'ai envie de dire. Pourtant, on a parlé pas mal de temps, mais on a fait qu'effleurer le sujet. Excusez-nous si on n'a pas été parfois. Si, voilà, c'est pas exhaustif.
Arrête de t'excuser.
Un peu plus précis.
Je l'ai déjà dit. Arrête.
Écoute, non, mais il faut avoir conscience de ses propres limites. Là.
Oui, mais on peut pas tout couvrir dans un podcast de 1h30 ou 2h.
Exactement, exactement. Mais en tout cas, j'espère que c'était une bonne introduction un peu au sujet.
Ouais.
Je trouvais ça intéressant, personnellement. Et j'espère que ça intéressera aussi les gens.
Oui, oui, oui. Moi, je me considère vraiment comme le candide. Donc, si moi, ça m'a intéressé, je pars du principe que les auditeurs vont être intéressés
et
aussi.
Je suis ravi. Peut-être pour terminer, Agère, avant qu'on te laisse, quelques recommandations. Tu sais, de 3-4 noms pour découvrir la musique arabe dans sa diversité. Alors, c'est un peu limité, 3-4, mais c'est à quelques idées comme ça où tu dis première porte d'entrée vers cette musique.
Bon, alors si on part du principe que tout le monde connaît Oum Kulthoum, alors on va pas la citer.
Ouais.
Moi j'aurais envie de vous citer Abdel Halim parce qu'on en a pas mal parlé. De vous citer, d'écouter Fairouz, mais d'écouter aussi ses premières chansons. Ouais. D'écouter Chap Hasni en Algérie, parce que c'est du rail phénoménal. Qui a pas forcément. Bon, d'ailleurs, il a une espèce de hype hipster ces derniers temps sur lui, mais qu'il a jamais eu. Enfin, il a jamais fait carrière à l'international. Mm-hmm. Enfin, à l'international dans le sens Europe. J'aurais envie de vous dire d'écouter... Après, peut-être partir par style. Peut-être ça peut être aussi une porte d'entrée, la raïta marocaine. C'est un style très très populaire au Maroc. Haja Hamdaouia, par exemple. Pour l'Irak, allez, je vais vous dire Nazim El Razaleh, je le prononce en français pour que vous puissiez l'écrire. Et je pense que là, vous êtes déjà pas mal, en fait. Et je vais citer la Tunisie parce que je suis tunisienne. Ouais. Et souvent, si ma mère, elle voit la vidéo, elle va dire non, mais en fait, je crois que j'ai raté un truc dans l'éducation. Et la Tunisie, Ali Riahi.
Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on reprendra le passage et tu nous donneras quelques liens peut-être. On regardera ensemble et on vous mettra dans la description sur YouTube. On va voir dans le podcast audio si on peut faire ça aussi. Mais comme ça, les gens pourront trouver facilement un peu les personnes que tu as évoquées.
Super.
C'est parfait.
Bah, merci beaucoup en tout cas.
Mais c'était un plaisir.
Merci à toi, c'était super. Ouais.
Daz.
Moi, à chaque fois, je repars, je suis rempli de savoir, mais de connaissances et d'envie de découvrir.
On devient des hommes meilleurs en faisant ça.
C'est incroyable. Ouais, je vais arrêter d'écouter du rap, en fait. Le monde est grand, le monde est vaste. Oh là là.
Tant que t'écoutes encore du rap français, ça va.
T'inquiète pas. Je viens du 9-4, je suis obligé. C'est contractuel.
En tout cas, on se retrouve. Là, on va faire une petite pause. Donc là, je sais pas exactement le combien on est, mais on est en plein mois d'août. On va se prendre quelques jours, quelques semaines de vacances, même, Daz.
Ouais.
Et on revient à la rentrée. Je ne sais pas quand exactement, mais on va revenir fort. Avec plein d'invités. On sera là tous les 15 jours, n'est-ce pas?
Ouais.
On va essayer de tenir le rythme.
Ouais, ouais.
Et puis toujours aussi passionnant. On va essayer en tout cas de parler de tous les aspects.
D'avoir
de
des gens inspirants.
Des gens inspirants, absolument, comme Ager. Et puis voilà, je remercie évidemment. On remercie la bouclette.
Évidemment.
Pour la technique, les gars incroyables de la bouclette. Thomas aussi de nous soutenir pour cette émission.
Bien sûr.
N'hésitez pas aussi à nous filer un petit coup de main avec les petits pouces, les petites. Alors toi, rappelle-moi le truc, c'est peu importe si c'est une mauvaise note, mais il faut quand même réagir.
Ouais.
Ouais. C'est ça, un petit commentaire. Vous pouvez nous dire que c'est. Mettez une étoile, si vous voulez, dans les trucs de podcast.
Même pour dire c'est déglingué.
Mais un commentaire.
Voilà.
Si vous nous haïssez, allez-y. Ouais. Pour une fois qu'on peut dire ça.
Je vois pas pourquoi, mais. finalement, voilà. Mais il y a des haters, donc allez-y, les gars. Détestez. Tant que vous le faites de manière vocale, moi, ça m'intéresse.
Exactement. Haïssez-nous.
S'il vous plaît.
À bientôt tout le monde.
Ciao, ciao.
Ciao.